Je connais cette théorie.
Bienvenue dans la contrebande.
Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
Nom de Dieu!
Ça dirait de grandir. Hein.
On est pas bien là?
Ça dirait de grandir.
Tu les sens les coussins d'huile?
Ah, j'aime l'humour. Et je suis sûr que je suis pas le seul. Et visiblement le cinéma français aussi. Puisqu'il consacre une bonne partie de ses productions ciné à essayer de nous enfoncer des bonnes tranches de rigolade dans la trachée de gré ou de force. Mais sans tomber dans le cliché du style « qu'est-ce qui fait une bonne comédie ?» Aujourd'hui, « qu'est-ce qui fait une bonne comédie ?» Beaucoup d'entre nous, cinéphiles ou non, j'en suis persuadé, ont gravement soupiré devant le trailer du dernier Christian Clavier Movie ou du film à pitch du style « Didier est un jeune cadre dynamique à qui tout réussit. Seulement, il est un peu macho. Jusqu'au jour où...
Oh mon Dieu, mais où est passée ma bite ?»
Il va échanger de corps avec son plan cul. Et il va se rendre compte qu'être une femme...
Wow, t'es-moi comment elle est bonne!
C'est pas si marrant!
Attends, est-ce que c'est un vrai synopsis?
Non, non, c'est. Mais ça pourrait!
Tu pourrais, bah,
je me suis largement inspiré de. L'un dans l'autre. Oui, bah ouais, c'était le film d'Audrey Dana et puis l'un dans l'autre avec Stéphane de Groot. Mais bref, je m'égare. On va donc parler gros lol aujourd'hui et se demander si on peut encore trouver des comédies françaises dont on pourra citer les répliques dans 10 ans et si c'est ce qui fait une bonne comédie. Mais aussi discuter des raisons pour lesquelles ce genre est toujours omniprésent dans le paysage cinématographique français, le pfff, avec autant de têtes connues depuis des décennies que de nombreux visages en vogue. Et pour rire de bon cœur, comme c'est déjà le cas, j'ai l'impression, la contrebande d'aujourd'hui est composée de Lucas Gutmann, la barbe rousse de Twitter. Bonsoir Lucas.
Bonsoir William.
Comment
Lucas
ça va?
Et son coussin. Ça va bien toi?
Lucas et son coussin calé dans le fauteuil.
C'est pour avoir le micro bien près de la bouche.
Exactement. Est-ce que t'es prêt à loler aujourd'hui?
Complètement.
Très bien. Dans cette contrebande, il y a aussi Bastien Reynal, bon, ma moitié. Pour cette deuxième émission.
Ah, on n'était pas prévenu.
Comment ça va, Bastien?
Les rapports intimes, ok, d'accord.
Comment ça va toujours pour ce deuxième enregistrement, évidemment?
Mais ça va toujours très bien. On est au taquet, on est motivé. Et on va parler cinéma français.
Et voilà, ça avance. On s'est déjà
comment
bien
sur ça la prochaine.
Et j'ai aussi Jean-Victor avec moi. Bonsoir Jean-Victor, ouais. Comment ça va?
Bah écoute, je suis prêt à loler avec vous.
C'est vrai? Prêt à loler?
J'aime le lol.
T'aimes le lol, t'aimes l'humour? Alors tu es à la bonne place. Et je voudrais citer aussi Antoine Buisson, notre ingé son.
Oui.
Qui s'occupe de...
Si
de...
on n'avait pas le micro dans les mains, on l'applaudirait.
Ouais, exactement.
Bon, c'est pas la peine.
Qui s'occupe gentiment de prendre le son et de nous apporter des pizzas quand on est à sec. Et ça,
c'est impératif.
Et ça, c'est beau.
Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Du coup, je vais commencer déjà par vous demander, tout simplement, quelle est la dernière comédie française que vous êtes allé voir?
Question
qui commence? Oui, question épineuse.
Mais puisque... ton coussin, je suis sûr que tu connais. Ah non, mais...
Non, je me souviens. Nom de la tête.
Est-ce que tu as déjà vu une comédie française au cinéma, Lucas?
Non, aussi, moi j'ai vu plein de comédies françaises au cinéma. Non, la dernière, je pensais comme toi, Jean-Victor, c'était le sens de la fête.
Ah, j'ai pas répondu à la question encore. Hein.
T'as dit quoi?
J'ai pas encore répondu à la question, tu sais.
Non mais tu me l'as dit juste avant. Juste avant.
S'il vous plaît. Vous voulez dire vous êtes parlé avant l'émission?
Ouais, non, c'est pas
là, là,
on s'est.
On fait pas ça ici.
On s'est déjà vu, on se côtoie, on s'est parlé avant l'émission.
Oh mon Dieu. Et tout est lié.
Et dans le dernier film que j'ai vu, c'était Le Sens de la Fête.
Ouais.
Un cinéma plein à craquer, des plus réceptifs. Donc à en croire la salle, effectivement, le film était complètement extraordinaire.
Quand tu dis en croire la salle, c'est dire que t'as pas pensé ça, toi?
Si, 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 si. J'ai trouvé ça. Pas mal du tout, ça fonctionnait plutôt bien et c'est peut-être à ce jour effectivement la comédie du duo là qui m'a le plus plu.
Ah, tu trouves ça mieux qu'Intouchable et
ouais.
Compagnie?
Ouais, je trouve ça
ah ouais
plus sympa qu'Intouchable.
Okay.
Même si je me sens très très loin, oui, de Samba, ça m'avait glissé dessus complètement. Mais si je mets de côté, même si c'est difficile effectivement, tout ce que raconte un peu dans le fond,
ouais.
Le sens de la fête, je trouve que c'est quand même des bons artisans de l'humour tous les deux. Ils débrouillent quand même plutôt bien, ça fonctionne bien. Puis ils ont
un acteur aussi, oui, qui tient la barre quand même.
T'as dit quoi?
Bah Jean-Pierre Bacri, c'est un moteur. Enfin, tu mets dans un film déjà, le film décolle a priori.
Jean-Pierre Bacri est extraordinaire, mais ce qui est vraiment extraordinaire, c'est la façon qu'ils ont réussi, je pense, un peu à orchestrer tous ces mecs-là qui ont des humours complètement différents.
C'est ça qui est surprenant.
Le mec,
t'as Vincent
Ivanov, McCain,
c'est ça qui vient de tous horizons,
clown triste. T'as Bacri qui est le taulier de cet humour un peu grinçant, etc. Et ça fonctionne super bien, quoi. Et les séquences d'émotion marchent aussi bien. Donc non,
un film rigolo et touchant.
Pour le coup, je commence un peu à
une bonne surprise.
Si on était passé sur le gros clash, effectivement, je commence un peu à contre-pied parce que la dernière comédie française que j'ai vue au cinéma
était bien.
Était
pas mal.
Correct, quoi.
Ouais.
Était correct.
Marchait plutôt bien. Parce que le problème, effectivement, c'est que les autres qui sont souvent décriés, je les vois pas.
Ben c'est ça en fait, c'est que et c'est là que je...
Sachant que Bastien n'a pas répondu à la question.
On va continuer, mais c'est là que j'aimerais intervenir en citant, comme ça c'est fait, l'émission MDR de Daniel Andreev, qui se charge d'aller voir les comédies françaises à la place des autres, et qui s'occupe de les débriefer avec d'autres camarades.
Le mec à 9h au Hall,
c'est lui. Exactement. Et il a réussi à ramener trois pauvres malheureux qui se sont fait tirer avec lui dans la salle pour qu'ils puissent débriefer des comédies. Et effectivement, ça rejoint ce que tu disais, c'est que, ouais, on les voit pas forcément, en fait, toutes ces comédies-là, parce qu'il y en a tellement. Est-ce que c'est pas aussi ça le problème? C'est qu'il y a une masse de comédies, mais on va en revenir.
Il y en a tellement, mais si peu à la fois. C'est ça le...
Voici,
je vous l'encadrer, celle-là, vous faites ce que vous voulez, copyrighter, voilà, merci.
La punchline de
Bastien Adal, ouais, comment épouse-moi mon pote.
De suite, le point épouse-moi mon pote,
on a du mal à le dire. Épouse-moi mon pote.
Bah, parce que c'est sorti en même temps, effectivement, la bande à Fifi que je connaissais pas avant qu'il commence à commettre les Babysitting 1, 2 et
qui ont commencé sur Canal, non, c'est ça?
Tout à fait. Il faisait des sketchs aussi, dans le journal Canal+. Mais là, ce film-là, on est déjà à 1,5 million d'entrées.
Mais oui.
Nous, on va pas les voir, mais il y a quand même des gens en France, 1,5 million de personnes qui sont déjà allées voir le film, qui qu'on pense.
Alors qu'ils auraient pu le regarder sur TF1 dans deux ans.
Mais un petit peu
sur M6.
Même.
On
sur M6, c'est M6, c'est une troisième M6.
Ah, je sais pas, mais
c'était TF1, ouais.
Par là, quoi. Ouais.
Non, mais oui, mais du coup, alors, donc là, on l'a tous vu, du coup, Le Sens de la Fête ici.
Oui.
Globalement, on est tous d'accord, on a plutôt bien aimé. On estime que ça fait.
Je rejoins mon ami Lucas sur le C'est correct.
C'est correct, c'est correct.
Ouais, on peut dire ce qu'on veut, mais Toledano et Nakash, quand même, vu le niveau du cinéma français, ça reste quand même
le haut du panier, un peu
tôt dans le haut du panier en termes de comédie française. Hein.
D'accord.
Et toi, Bastien, c'est quoi la dernière comédie française que t'as vue?
Alors moi, je voudrais déjà qu'on définisse le terme de comédie française. Est-ce qu'on parle de comédie volontaire ou de comédie involontaire dans le cinéma français?
Un film qui essaie de te faire loler.
Ah, qui d'accord. Essaie de son plein gré.
Parce que toi, tu estimes film français qui te fait rire.
Après, voilà, là, du coup, je vais en sortir un sacré nombre. J'ai bien rigolé devant plein de films qui n'étaient pas prévus pour ça.
Oui,
mais c'est un autre débat.
C'est un autre débat, effectivement.
Mais sinon, la dernière comédie française, je crois que c'était Le Petit Spirou. Est-ce qu'on peut parler de comédie, je pense?
C'est la dernière que t'as vue?
Je crois que c'est Petit Spirou, ouais.
Divertissement.
Donc c'était Le Petit Spirou, c'était extrêmement mauvais, je sais pas ce que je peux dire de plus là-dessus.
Est-ce que tu étais fan de la BD à la base?
J'étais fan de la BD, je la lisais, oui.
Ouais.
Je rigolais un peu.
Donc est-ce qu'on estime aussi que...
je me remets dans le film en fait, et du coup ça fait un peu mal.
Il a une larme sous la joue.
C'était un peu mauvais, ouais, c'était très mauvais. Mais c'est moins pire que ce que... Enfin...
Vous voyez toute la difficulté de faire un dossier comme ça.
C'est compliqué. Je me rassure en me disant, je suis sorti du film en me disant, ça aurait pu être pire.
Ouais. Sachant que là, on est déjà sur un sous-genre qui devient presque majeur, c'est-à-dire la comédie française, les producteurs français qui veulent absolument s'accaparer toute la bande dessinée.
C'est
drôle d'action, d'humour de la bande dessinée française.
Ouais.
Et c'est que le début parce que effectivement,
c'est
là, on
majeur, c'est des années. Ces années récentes, et on a
complètement. Prof 1, les profs 2 qui étaient des immenses cartons.
Pef est en train de devenir un des plus grands réalisateurs français.
Du coup, but 1 et du coup, but 2 aussi.
Oui,
le petit Nicolas 1, qui je pense là pour le coup est vraiment le haut du panier des adaptations parce que ils se sont quand même plutôt bien débrouillés sur le petit Nicolas 1.
Petit Nicolas, ça allait, ouais.
Il y avait des décors, c'était familial, ça rassemblait un petit peu. Mais il y avait tout ce que personne n'a vu, genre Benoît Brisefer,
dossier épineux, qui était totalement le réalisateur n'a pas signé le film, il me semble. Benoît Brisefer, il s'est totalement dédouané, s'est signé sous un pseudo, non?
Alan Smithy
ou un cousin à lui, tu vois, mais
et là, Alain Schmitt,
je sais plus.
Et là, on va au devant de quoi, de Kid Paddle, de Gaston Lagaffe, on a déjà les premières photos.
Ouais. Pef, réalisateur des profs, du coup sur Gaston Lagaffe.
Et pour le coup, j'ai pas envie de tiquer complètement vomir parce que ça a l'air pas bien, effectivement, mais sur Gaston Lagaffe, les photos, la posture, je me suis dit, putain, ce sera peut-être le deuxième moins pire. Tu vois,
voilà, on raisonne comme ça, voilà. C'est déjà grave.
Mais oui, mais le problème aussi de ces films-là, c'est que justement, je rejoins aussi un peu le principe de la masse, en fait, des sorties, c'est que on commence à choisir les moins pires, en fait, et je prends un exemple du coup, parce que moi, la dernière comédie française que j'ai vue juste après Le Sens de la Fête, c'est Coexister, donc le film de Fabrice Eboué avec Jonathan Cohen et Guillaume de Tonquédec. Et bah, j'y suis allé avec l'a priori de me dire, ça va être de la comédie facile, mais le thème a l'air de me faire rire, je vais voir ce que ça va donner. Et du coup, j'étais agréablement surpris parce que j'y allais avec un niveau d'attente tellement bas qu'en fait, bah, quand j'ai vu le film, je me suis dit, oui, il y a des blagues faciles, drôles parce que, bah, voilà, c'est des espèces de blagues de stand-up, quoi. Et puis, il y a quelques fulgurances assez sympathiques et tout. Et en fait, je pense qu'on en est arrivé un peu là, en fait, à considérer, du coup, que Le Sens de la Fête, il suffit d'en parler un petit peu, de critiquer un peu pour, je trouve, se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de défauts dans ce film aussi. C'est loin d'être une comédie parfaite. Enfin, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est loin d'être une comédie parfaite. Mais on en vient à se dire, bah ouais, c'est le haut du panier quand même.
Bah, surtout que par rapport à ce que tu dis sur Coexister, c'est intéressant parce que l'un des gros courants actuels de la comédie française, c'est justement de parler de sujets de société un peu chauds. Je pense qu'on a tous en travers de la gorge l'exemple absolument terrifiant de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et des autres films.
Bras ouverts.
Voilà, ce genre de choses. Deux mots bientôt.
Le clavier verse.
Le clavier Cinematic Universe. Où en fait, on en vient à de la comédie qui se veut un peu proche des Français en évoquant des sujets qui sont un peu sur toutes les langues, etc. Ouais,
les sujets du JT, quoi.
Mais voilà, exactement. Mais qui sont des comédies mais absolument puantes, quoi. Et bon, personnellement, j'ai pas vu Coexister, mais d'après ce que j'ai compris, alors que c'est quand même un sujet un peu chaud et casual, ouais, ça s'en sort, quoi. Ça tape un peu partout, tout le monde en prend pour son grade et c'est pas non plus.
Et en même temps,
c'est jamais déplacé, quoi.
Non, c'est jamais déplacé. Et en même temps, je trouve qu'en plus de ça, enfin, tu vois, en plus de justement le, c'est aussi pour ça que je voulais aller la voir, en fait, parce que je me suis dit, genre, quelque part, il y avait aussi le plaisir malsain que je pense qu'on peut avoir en allant voir certaines comédies, et que je pense que c'est aussi pour en revenir à Daniel André, la motivation d'aller voir ces comédies, c'est que on a un peu le plaisir malsain de les voir se casser la gueule un peu.
Ah, c'est clair, ouais.
Et du coup, Coexister, le propos m'intéressait de me dire qu'est-ce qu'il va en faire. Et je trouve qu'en plus, il a réussi à faire une espèce de feel good movie, qui quand même est la base du film de bah ces trois personnages avec des religions différentes machin qui enfin tout est dans le titre en fait
ouais.
et c'est bien rodé en fait et du coup bon c'est loin d'être la comédie de l'année et tout mais voilà
mais le sens de la fête fonctionne aussi là-dessus hein. C'est un film qui vend le vivre ensemble
ouais. Est-ce qu'il vaut pas mieux se baser sur ces. Parce que la comédie, c'est aussi un peu ça, a toujours été un peu ça, de toute façon, après je te laisse parler Lucas, excuse-moi, mais ça a toujours été un peu ça, c'est-à-dire rire des sujets de société, encore plus peut-être la comédie française, je pense, c'est rire des chocs sociaux et tout ça, des confrontations entre les riches, les moins riches, les religions, les athées, les religieux, big up Rabbi Jacob, mais du coup, voilà, est-ce que ça n'a pas toujours été un peu ça, les grosses comédies, c'est voilà, bah, de toute façon, même si on veut se la péter un peu, c'est même ça depuis Molière. Mais le côté, les classes qui s'affrontent et qui on en rit, et voilà, et ça a toujours été un peu ça. Sauf que, ouais, effectivement, depuis quelques années, c'est peut-être un peu galvaudé ou pris un peu de travers. Genre, épouse-moi mon pote, typiquement, il tombe dans l'erreur de ça, quoi. Enfin, de vouloir dire, on va rire des clichés sur les homos, sauf qu'en fait, ils font que des. De ce que j'ai compris, je l'ai pas vu.
D'après ce que j'ai compris.
Voilà, ouais.
Mais le truc, c'est que je pense qu'en fait, les comédies qu'on a citées qui sont correctes, genre Coexister, qui a été réalisé par Fabrice Eboué, qui est un comique, et les films de Nakache et Toledano, c'est que Nakache et Toledano, ils ont fait que ça. Ils ont toujours fait quasiment que ça. Voilà, ils veulent faire rire les gens.
Bien sûr. Ouais.
Et quoi qu'on pense de leurs films, c'est des mecs qui ont vu les classiques, qui savent ce que c'est que le timing comique, qui savent un peu écrire la comédie, etc. Fabrice Eboué, j'ai vu une ou deux interviews, il avait envie de faire ce film-là.
Ouais.
Il l'a écrit, il avait envie de raconter cette histoire-là.
Ouais, ça se sent, ouais.
Mais il avait pas envie de faire le crocodile du Botswanga qu'il a fait après Casse Départ, qu'on lui a un peu mis dans les pattes, on lui a dit Fabrice, il faut que tu réalises une suite, etc.
Ouais, ouais, ouais.
Tu vois, je pense que les mecs comme.
Une suite de Casse Départ, crocodile machin.
Non, mais c'est qu'il a fait après, un peu dans la même. Dans une veine un peu similaire.
Et je crois que c'est
la merde.
Merde, mon Dieu.
Et le truc, c'est que. Ces autres films-là, les autres films qu'on n'aime pas, qu'on trouve très très mauvais, c'est que c'est des films de producteurs, de sociétés de production.
Ouais.
Parce qu'on est tous d'accord pour dire que je pense que en France, effectivement, la comédie, c'est quasiment le genre qu'on a le plus.
Ouais, bien
sûr. Un genre qu'on a le plus. Et qui est, je pense, un des genres les plus durs à traiter, au final. C'est très très dur de faire rire les gens.
C'est le plus subjectif.
C'est le genre qu'on traite quasiment le plus mal en France. Ouais. Aux États-Unis, il y a quand même une noblesse du rire, même chez les frères Farrelly, enfin, tu vois, il y a plus de boulot. Et c'est des films de producteurs et on a une idée, on a une histoire. Et je sais un peu que aussi, on va chercher des têtes, tu vois. Quand on parle de clavier, c'est parce qu'il a eu un petit revival et du coup, il a fait des entrées sur un film et du coup, clavier, il faut qu'on le casse partout.
Ouais, je pense
Catherine Fro, on parle de Momo, elle a eu un César, il faut qu'on la case, tu vois. C'est pas l'école blanche d'Hollywood pour faire référence à la première émission de Marvel, etc. Mais il y a un peu une idée similaire, tu vois, c'est statistique. Et puis après, on balance le film dans les pattes d'un réalisateur qu'on a. Je sais pas si c'est une Philippe de Chauvron, il en a rien à foutre de la comédie, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie noblesse de la comédie. Et effectivement, après, quand tu vas taper sur des sujets effectivement qui font rire les gens, qui sont des sujets super compliqués, et bah tu vas dans le sens des clichés et tu vas dans le sens de ce que les gens veulent. Et t'es plus dans, c'est pas assez inclusif, c'est complètement exclusif. Enfin, un truc comme qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, je l'ai vu au cinéma. Et j'étais choqué parce que ce que j'ai ressenti dans la salle, du rire des gens. Parce qu'en plus, il y avait un timing, il y avait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Donc c'est quand même
ça marchait au petit rire nerveux. La petite,
Mais pour le coup, je trouve plus dangereux un film comme À bras ouverts que Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu.
C'est la même chose.
J'ai pas vu À bras ouverts.
C'est pire.
C'est pire, c'est encore pire.
Mais respect.
Parce que Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, il a vraiment le mérite, entre guillemets, c'est pas plus un mérite, de taper un peu sur tout le monde, il brassait un peu large. Lui, ouais, il reste ciblé.
C'est plus dans la moralité, en fait. Enfin, oui, tu vois. La morale de Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu, c'est quand même, si je suis raciste avec toi, mec, t'es raciste avec moi, pas
ça
de problème.
Passe. Bah
non,
on est potes,
c'est atroce.
Rions ensemble du malheur des autres.
C'est atroce.
Mais là où À bras ouverts vraiment ciblé une communauté et jouer sur.
C'est le truc avec les Roms, c'est ça, il accueille des Roms chez lui.
C'est terrifiant. Te prend les Roms, il joue sur les clichés des Roms, il te dit ah ouais, mais en fait les clichés sont totalement vrais, les Roms sont exactement comme on le pense, c'est vraiment des clichés ambulants. Et voilà, et du coup, bah vas-y, on va rigoler avec les clichés.
Fin rideau.
Et c'est tout.
Avec les fameuses prises de conscience de Christian Clavier dans les 5 dernières minutes. Dans tous ces films-là, il est ah oui, Dieu. En fait, quand même.
C'est des êtres humains.
Ouais. Wow.
Mais non, parce qu'en plus, alors, en fait, le truc, c'est que ce genre de film, c'est un peu comme là, Épouse-moi mon pote, à force de lire des choses, entendre des choses dessus qui le taclent, hein, globalement. Heureusement, quelque part, mais...
Il y a eu la même histoire aussi avec Gangsterdam au début d'année.
C'est exactement ce que j'allais dire. Merci, Jean-Victor.
De rien.
C'est gratuit, c'est cadeau. C'est la même histoire qu'avec Gangsterdam, c'est qu'on a l'impression d'avoir vu le film. Mm. Donc, quelque part, on se... Bon, de toute façon, ici, on va faire
si pour le coup, je tiens à signaler. Non, Gangsterdam, je tiens à signaler, j'ai pas trop passé un mauvais moment devant ce film.
Putain, il y a Roger Hauer dedans.
Je tenais à le dire.
C'est Bastien.
Il y a une madame dans le film et j'ai passé un.
Donc, qu'est-ce que t'as pensé de la fameuse polémique de l'histoire de viol?
Je chie à la gueule, la petite polémique de merde.
D'accord, très bien.
Voilà, je tenais à le dire, que ce soit enregistré.
Antoine Tatou,
en toute subtilité, avec l'élégance qui me caractérise.
Je vous emmerde.
Je vous emmerde.
Et je rentre à ma maison.
Non, honnêtement, je trouvais la polémique un peu idiote, en fait.
C'est d'accord. Quand la polémique, c'est quoi?
C'était qu'en fait, ouais.
À un moment,
c'est un peu nul.
Il pousse un mec à sucer son pote, je sais pas quoi. C'est pas
ouais,
ça?
Mais c'est sûr. Ouais. Enfin, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un personnage dans le film.
Non, mais excellent.
Le film dans son contexte.
J'adore.
Il y a un personnage dans le film qui est posé comme étant un énorme raciste, misogyne, tout ce que tu veux. Il est posé comme ça, c'est un de ses traits de caractère. Ce qui fait qu'il fait énormément de vannes racistes, misogynes et tout ce que tu veux. Et forcément, à chaque fois, il s'est peut-être c'est chaud quand même, arrête un peu de faire ça, mais bon, c'est son personnage, il est toujours comme ça. Et forcément, ça amène, je sais plus où je voulais aller avec ça, mais du coup, ça amène à une scène où il se retrouve à tenir en joue deux mecs qui voulaient les flinguer. Il tient en joue avec un flingue et...
On sent la gêne quand tu racontes la scène.
Il est en train de se dire là, non, en fait, j'ai pas du tout rigolé devant la scène.
Il y a un process qui se dit putain,
la scène est hyper maladroite, en fait. Et tout face à face, il dit ah, vas-y, bah, tu vas nous sucer la bite. Voilà.
Excellent.
Mais c'est vrai que c'est excellent. Humour, on adore.
Et du coup, zygomatique, contracté.
Non. La vanne, ça ne marche pas, elle n'est pas très drôle dans le film. Mais de là à en faire toute une polémique derrière et juste sortir cette scène-là de son contexte avec ce personnage qui est posé, hein, le film ne soutient jamais le personnage. Le personnage est posé, c'est un de ses traits de caractère, et les autres personnages qui gravitent autour de lui le remettent en question constamment par rapport à ça, genre, mec, c'est chaud, arrête.
Le truc, je pense que les gens qui s'indignent de ça, pour le moins à juste titre, c'est qu'est-ce qui lui arrive à ce personnage à la fin? Est-ce qu'il change, parce que vraiment, le coup du personnage, le gros raciste, tu lui mets tous les archétypes juste pour se défouler et on le laisse vivre dans son coin et on met ça sur le dos de la maladresse d'une scène. Putain, ouais, tu fais un film qui va être vu par des centaines de personnes.
Surtout que
t'es un réel, quoi. Tu vois, tu portes des idées, tu fais quelque chose derrière, quoi.
Ouais, carrément des centaines. Hein.
on est sur
genre pas 100 personnes.
Il y a des Kev Adams, donc on est sur des milliers. Mais le truc, c'est que
le film a fait un bide. Hein. Ouais, il fait un énorme bide, le film.
Ouais. Il a bidé. Mais je me dis que, putain, t'es.
Ah, mais c'est surtout la question, c'est excuse-moi, par rapport au mec qui met les gars en joue et qui les pousse à faire ça, qui est le mec, est-ce qu'il est porté comme un type cool? Parce que moi, en fait, cette blague-là me fait penser à un sketch des nuls où deux flics à Miami. Voilà,
vous pouvez, ouais.
Ah oui. Vous pouvez checker l'intégrale des nuls et les rechercher.
Je sais pas, l'intégrale,
le fameux intégrale.
Là, on va rigoler.
Où t'as Dermot Faradja qui dit de la drogue, il l'arrête et ils font suce-nous la bite. Et lui, il fait oh non, les gars, je suis un mec à la couche, je vais pas vous sucer la bite. Bon, bref.
C'est très. Je suis pas un enculeur de maman.
Je suis pas un enculeur de maman.
Je fais très très bien.
On connaît ses classiques ici, c'est bien. Mais en fait, le sketch est drôle parce qu'en l'occurrence, les deux flics, c'est des gros losers finis. T'as la tronche d'Alain Chabat avec des cheveux bouclés qui après nous fait battre de Michael Jackson.
Chabat, c'est tout. T'as la tronche d'un Chabat.
Lol. Non, mais voilà. Et en fait, c'est des gros bouffons, donc ça passe parce qu'ils sont ridiculisés. Après, j'ai pas vu Gangsterdam, mais si le mec qui pousse les types à sucer, ça, il est porté comme un type marrant, cool et.
Pas cool, vraiment. Il y a toujours une petite gêne hein, quand il parle. Hein. C'est jamais.
Oui, c'est ce que c'est voulu.
Je sais pas, du coup, si, je pense honnêtement que c'est voulu, vu comment réagissent les personnages autour de Kev Adams et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. C'est totalement voulu que ce personnage soit un peu gênant et qu'il n'arrête pas de le dire de se calmer. Mais après, c'est très maladroit dans la manière dont c'est fait. Je suis d'accord, mais c'est plus de la maladresse. Qu'une volonté vraiment d'être raciste ou misogyne, ce que tu veux, homophobe. C'est vraiment de la maladresse plus qu'autre chose, et je trouve ça dommage qu'on en fasse un débat de société en fait.
C'est
de
ça n'existe pas, c'est la maladresse.
Faire une erreur au cinéma, c'est pas possible. Sinon, je regarderai pas.
Parce que là, il y a tellement de choses autour de nous. Là, on sort de la France, mais aux États-Unis, mais en France, on veut pas en parler de tout ce qui se passe, la Weinstein, etc.
Ah ouais. Si, on en a parlé dans la première. Ouais.
Mais genre, la maladresse, c'est quoi cette putain de maladresse? Là, le mec qui fait un film, tu vois. Parce que Kingsman 2, je l'ai pas vu, mais je sais que toi, tu l'as vu.
Moi, je l'ai vu aussi.
Mais on m'a dit dans Kingsman 2, il y a une séquence où effectivement, la mission, c'est d'aller mettre un doigt à une nana, et au bout du doigt, effectivement,
t'as. D'ailleurs, je tiens à le signaler.
Mais extrêmement mauvais goût.
T'as un capteur et puis la caméra rentre dans le vagin de la fille, etc. Exactement. Etc. Toujours aussi subtil, enfin, etc. Et ouais, j'ai pas vu le film.
Kingsman 2, en fait, la différence, c'est que déjà le mec, ça l'emmerde de le faire.
Oui.
Il remet le truc en perspective et il y a le côté.
Oui,
oui. Tu te dis ils vont pas le faire et ils y vont.
Je casse une règle.
Je disais juste ça pour dire que ensuite, quand les gens balancent leurs critiques, quand ça discute sur Internet, quand les gens discutent dans la rue, t'as le truc. C'est le « Ah, mais vous nous emmerdez, putain. On peut plus rire de rien du tout. Vous êtes vraiment pas drôle. Chacun son humour, etc. » Et vraiment, le « chacun son humour », le problème, c'est que je pense que les gens, on pourrait essayer de leur proposer autre chose. Quoi, que
je suis d'accord.
Les gens, s'ils ont envie de se dire « Ok, chacun son humour, on peut rire de tout. » D'accord, ok. Mais je pense que c'est aux producteurs qui sont à la base pour filer le pognon. Parce que après, je t'imagine qu'un peu plus tard dans le podcast, on parlera de... des autres petites comédies, mais qui n'ont pas de thunes, genre les combattants, c'est qui font rire les gens, mais qui font genre 400 000 entrées. Mais les comédies où tu mets plusieurs millions, qui sont achetées par TF1, etc., et qui vont faire pas mal d'entrées, qui sont produites par TF1, il faudrait effectivement mettre des réels derrière des gens qui ont envie de raconter des choses. Il
n'y
a pas que Azanavicius qui a envie de faire de l'humour.
C'est même pas le simple fait de raconter les choses, c'est le fait de comment tu les traduis à l'image. Parce que le cinéma, c'est quand même visuel et la comédie, c'est un truc très visuel. Quoi. Et c'est pour ça que par exemple, un mec comme Edgar Wright a cartonné parce que c'est quelqu'un qui arrive vraiment à traduire visuellement ses gags et à créer une grammaire qui est rythmée.
Des gens qui bossent.
Qui est visuelle. Quoi.
Après, tu reviens au problème du cinéma français de manière générale, en fait.
Oui, c'est un vaste problème. C'est le sujet de ce gros dossier qu'on va faire au fur et à mesure.
Fait qu'on a totalement abandonné le visuel en France, en fait.
C'est vrai que, par exemple, si je vous dis, c'est quoi le dernier film que vous avez en tête de comédie française avec de l'humour visuel? Donc du burlesque, des trucs
comme ça. Ça va être un film d'Albert Dupontel, ça va être 9 mois ferme.
Non, moi, c'est Au revoir là-haut, du coup, que j'ai vu il y a quelques jours, mais les scènes drôles sont des scènes de gags visuels où, en fait, Dupontel a vraiment un humour cartoon un peu.
Ouais, carrément.
Où c'est vraiment des plans avec des espèces de trucs, des personnages qui sortent du mur.
C'est
pas une
comédie, c'est Charlie Chaplin.
Ah oui, et puis le film, et puis il y a même carrément des références aussi à Buster Keaton, à le film est dédié à Gottlieb et tout. Enfin,
oui, mais c'est pas une comédie, tu vois.
Et c'est pas une comédie.
La Jungle, le film de Pierre Jacques.
Oui, oui. Que j'ai pas du tout aimé, mais bon.
j'ai pas du tout aimé. Mais qui pour le coup, Pierre Jacques, qui a eu son éducation cinématographique, je pense, je sais pas. En plus, il est la féministe derrière, etc. J'ai pas du tout aimé le film. Mais il y avait un travail quand même d'humour visuel, il y avait la scène de
qui défonce des gueules,
qui est hommage à Bud Spencer, des scènes de film de baffe, quoi, la Bud Spencer et Terence Hill avec la musique en décalage, les baffes, la clope au bec, etc. Ça, c'est visuel. Puis même dans la jungle, il y a des trucs de voiture complètement un peu imbéciles. Et puis, je ne l'ai pas vu, malheureusement, parce que je suis un grand fan, mais il n'y avait pas un peu d'humour visuel dans la tour de contrôle infernale?
Je ne l'ai pas vu. Mais je crois que c'est un vaste
doute. C'est un vaste qu'il faut qu'on demande.
Je l'ai vu et je n'ai absolument aucun souvenir. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous aider. Non, je suis vraiment, c'est terrifiant. Je l'ai vu, j'ai pas ri du tout. C'est tout ce dont je me souviens, je crois. Je n'ai aucun souvenir. Non, c'était très, très triste.
Je pense que. Est-ce que c'est pas. J'ai eu l'impression, même en voyant les bandes annonces, des images du film. Bon, voilà, encore une fois, sans avoir vu le film, ce sera mon leitmotiv aujourd'hui. Mais. J'ai l'impression qu'en fait, ça a l'air d'être un film. Déjà, la tour Montparnasse Infernal, il avait un peu cet effet des blagues où tu sais pas trop si elles ont été prévues comme ça ou si c'est juste la blague se fait un peu sur le malaise, plus des blagues qui sont gros sabots et tout. Non, mais voilà. Mais je me demande ce que. Parce que Lucas fait des grimaces. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que la tour de contrôle, en plus avec Catherine et tout, Philippe Catherine, je me demande si c'est pas justement un film. Un peu post Mister Oiseau, quoi, le côté un peu absurde.
Pas du tout, c'est un film post Charles Némès. Donc,
très bien, merci, au revoir. voilà. Drop the mic.
voilà, répasse ça, ma gueule.
Mais il est fou.
J'aurais dû le voir parce que j'adore Eric Judor, j'adore son taf. Ah oui, parce que là, pour le coup, c'est lui qui réalise. C'est plus Charles Némès. Alors, du coup, c'est plus Charles Némès des épisodes de H ou de. Effectivement, du Gomez et Tavares. Mais... Non, c'était pas lui qui avait fait ça.
C'est pas lui.
De.
C'est
pas Pires.
Gomez. Non,
c'est pas Pires. Pires, c'est pas Gérard.
Pires, mais Charles Némès, c'est le réel. Charles Némès, effectivement, c'est le réel de la tour de Montparnasse Infernal.
Oui, tout à fait.
Qui tombait bien quand même.
Oui,
oui. Qui tombait, quoi, 5 ans après Die Hard 3.
C'est ça.
Qui continue à être un pastiche de tout ça.
Bien sûr.
Quand même. Bien fait, il y avait du pognon au final, il y avait un peu de pognon et
puis c'est un vrai statut de culte. Hein. La tour Montparnasse Infernal, c'est culte.
Oui, mais est-ce que vous trouvez pas
pour tout un tas de gens, les gens sortent des répliques constamment parce que c'est idiot.
Bah oui, comme on en parle dans l'intro, est-ce que justement c'est pas simple,
non.
Voilà,
c'est clair.
Pour revenir à cette fameuse question du film culte dont on sent la réplique, je pense que le dernier qu'on peut tous citer unanimement, c'est OSS 117.
Ouais.
Bien sûr.
C'est le dernier film français. Donc tu fais J'aime le beurre et la biscotte. Non, c'est la France du général de Gaulle. Enfin, c'est un film où tu vois, les répliques elles viennent facilement. Quoi.
Bien sûr.
Et depuis, bah.
Même si plein de gens n'aiment pas ce film.
Ouais, c'est ça.
Oui, parce que c'est en fait,
des gens qui n'aiment pas ce
film. Non, mais ça rejoint un truc aussi, c'est que c'est une comédie qui ne brosse pas forcément les gens dans le sens du poil, parce que c'est une comédie qui, bon, tu vois, qui te dépeint quand même le français beauf typique.
Écoutez, mon petit.
Voilà, exactement. Et qui lui en met plein la gueule. Et. Bah, c'est un genre qu'on n'a plus tellement. C'est à une époque ça se faisait. Enfin, je pense que la grande vadrouille ou des trucs comme ça, c'est des films qui sont pas toujours très gentils et qui te tapent un peu sur la gueule. Mais ça fait toujours du bien, c'est d'aller se regarder dans le miroir un peu et dire c'est vrai qu'on est un peu con, quoi.
Ouais, mais justement, je trouve que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les thématiques qu'on essaye de traiter aujourd'hui dans les comédies, qui sont en fait qui pourraient marcher puisque c'est à peu près les mêmes que ce que tu dis de nous montrer, nous mettre face à nos conneries. Sauf que le problème, c'est que il y a cette espèce, je sais pas si c'est parce que c'est un filtre dont on parlait des gens qui connaissent leur classique et tout. Moi, je suis persuadé, regarde, PEF, au final, bah, j'ai pas spécialement aimé Les Profs ou les choses comme ça, mais
pas aimé.
C'est quand même un mec, je pense, qui a vu toutes les comédies françaises et américaines et tout ce que tu veux.
Bah, c'est comme Olivier Barrault, ça n'empêche pas de nous avoir fait des merdes. Hein.
Voilà. Et.
Déjà le point
tuche. Sur le cas de souvenirs douloureux.
Le point tuche, déjà.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de filtre qui est qu'on a mal compris ce qu'il fallait faire pour faire une bonne comédie française avec toute la. Comment dire. Le côté hautain que ça implique.
Sur la genre, séance
vous ne savez pas comment on fait. Mais
De toute façon, il y a plusieurs critères. Il y a le financement actuel du cinéma, etc. Et je pense qu'il y a aussi un climat social. C'est-à-dire que c'est Aznavicius qui disait on ne pourrait plus faire OSS aujourd'hui. On ne pourrait pas faire OSS 117.3. Ça serait
pas
très mal
vieux. Alors que c'est pas
ça date déjà d'il y a 10 ans. Et enfin, moi, je pense que c'est pile la période où justement il faut mettre le doigt dessus et y aller un petit peu. Mais quand on vient là, quand on vient à t'auto-censurer en te disant ça va mal être reçu, machin, c'est. Bah, bon, c'est la fameuse question, est-ce qu'on peut rire de tout, etc. Mais c'est qu'il y a déjà il y a un problème, quoi. Et c'est même plus un problème d'art, de cinéma, c'est un problème social.
Ouais, bah, de toute façon.
C'est hyper profond, en final.
Non, bien sûr, de toute façon, moi, je pense que la comédie, puisque c'est le genre omniprésent en France, elle peut être analysée de plein de points de vue. Et moi, je pense que ça peut même être analysé du point de vue de. Comme les films d'action peuvent être analysés aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire, comme c'est un genre omniprésent en France, globalement, comme on. En grossissant le trait, bien sûr, mais il n'y a pas que ça non plus. Mais en grossissant le trait, on n'a que ça analysé, quoi, on va dire. Ça fait que du coup, on en vient à se dire oui, alors du coup, si les comédies évoluent de cette telle façon-là, que du coup, on se mange à chaque film, justifié ou moins, des polémiques sur ah, ça quand même, c'était chaud quand même. Comme tu dis, c'est le reflet d'une évolution sociale. Du coup, oui, ça a refroidi certaines personnes et, en plus, et c'est je drôle sais plus du tout où je voulais en venir, mais je vous laisse continuer. Mais
non, parce qu'il y a sur cette question de la représentation de la société, etc., en fait, on en vient, tu vois, donc du coup, à faire des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en disant ouais, vivre ensemble, machin, etc. Mm-hmm. Mais en fait, qui sont des questions qu'on se posait pas à une époque. Récemment, j'ai revu Astérix Obélix Mission Cléopâtre.
Ouais.
Le héros, c'est un arabe. C'est Jamel Debbouze.
Bah ouais.
Il y a Dieudonné, il y a des rebeux, il y a des blagues, il y a des français, etc. Et c'est un film qui est multiculturel à 300%. T'as Monica Bellucci qui est italienne, qui est dans le cast, qui a un super rôle. T'as évidemment bon, les deux bons français, Gérard Depardieu et Christian Clavier à l'époque où il était encore rigolo.
Et Claude Rich.
Ils ont retenu que ça pour faire la suite aux Jeux Olympiques. Ils ont voilà, juste des gens plein de pays différents.
Mais en fait, à l'époque, ça a été un carton monstrueux. Tout le monde a adoré ce film. Tout le monde citait Jamel Debbouze, etc. Alors que c'est pas forcément des gens qui venaient de la culture un peu rebou, j'en sais rien.
Les t-shirts avec le monologue d'Edouard Baird.
Voilà, le fameux putain de monologue d'Edouard Baird qui est toujours aussi génial. Et à l'époque, mais on se posait même pas la question. Et ça m'a, en fait, ça m'a choqué en voyant le film, en me disant putain, mais c'était, enfin voilà, la question ne se posait pas. Et les gens, qu'importe leurs horizons, qu'importe leur origine sociale, etc., ils y allaient, ils se fondaient la gueule, et voilà, et tout le monde était content. Et aujourd'hui, il y a plus ça.
Mais parce que une fois de plus, c'était putain de bien fait. Quand tu lis des interviews, des interviews de l'époque,
c'est vraiment
quand tu lis des interviews de l'époque de, par exemple, je repense à l'interview donc 2002, première, il y avait une interview de Chaba et de Jamel Debbouze, et le journaliste, il interview et il pose des questions sur tout ce qui est improvisation, etc., etc. Et Jamel Debbouze, il disait, ouais, on peut faire de l'improvisation, mais Chaba, il rigole pas. C'est-à-dire que tout est écrit, tout est timé. Toutes les vannes, tu crois que c'est pas timé, c'est timé. Genre quand effectivement il y a eu de l'impro et Jamel Debbouze, il a voulu refaire le truc où il se prend l'obus et qu'il s'énerve, les Romains, vous êtes tous des Romaines et qu'il leur envoie, etc. Ça, c'est une impro qui a demandé une journée. Il a fait, Chaba, il a dit
ouais,
ok.
C'est avec les boules qui tombent ouais, voilà, et couler là, c'est improvisé, ça leur a pris un temps fou à faire.
Quoi, tu vois, non, parce que tout le reste, c'est du timing, etc.
Et puis, il faut pas oublier que l'impro, c'est pas du tout facile. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on dit c'est improvisé qu'ils y sont allés yolo. Enfin, c'est l'improvisation, c'est un style d'humour aussi, ouais. Et ça se travaille et ça se cadre. Et enfin,
effectivement, le monologue d'Edouard Baird, effectivement, il avait quatre lignes, les quatre premières, ses quatre premières répliques, et puis après, il y avait.
Je crois qu'il avait la fin aussi. Il avait le début, la fin.
Le début, la fin, et puis au milieu, effectivement, je sais plus comment, d'un point de vue scénaristique, comment on l'écrit, mais il y a entre parenthèses, il y a un truc en mode.
Tu te démerdes.
Edouard Baird freestyle.
Soit tu fais ce que tu veux, soit tu restes sur les quatre lignes. Et Edouard Baird, effectivement, il est parti sur la profession, stabilité, etc. Donc, tout ce qu'on connaît de tout le culte, de tout le culte, effectivement, d'Edouard Baird. Mais effectivement, je pense effectivement que Astérix Obélix Mission Cléopâtre, qui avait encore plus de budget que OSS 117, je pense que c'est le dernier gros, immense budget, la thune que Gaumont a filé pour faire ce film-là.
Ouais, à l'époque, c'était un
film impressionnant.
C'était peut-être le film le plus cher.
Il était battu par Astérix aux Jeux Olympiques, du coup, dans la foulée.
Non. Après, les deux films encore français les plus chers, ça doit être, si je dis pas de conneries, effectivement, Au service de sa majesté, donc Astérix Obélix 4, produit par les films. Et le film de Gaumont, une fois de plus, de Jamel Debbouze, Pourquoi j'ai pas mangé mon père, les
fameux. Depuis,
20 millions sur le papier, 40 millions déclarés, et coût réel, 70 millions de.
Que Jamel Debbouze a.
De trous financiers.
Ouais, et que Jamel Debbouze a fini par porter tout seul.
Alors que pour le.
Il était le seul à le faire la promo à la fin.
Qui, pour le coup, représentait un vrai projet, comme on n'en voit pas beaucoup en France, comme un film en performance capture en France.
Et puis il s'est fait lâcher complètement au fur et à mesure.
Complètement droppé.
C'est un désastre, c'est impressionnant. Mesure, tout le monde se barrait, quoi.
Justement, ça pourrait être intéressant d'aborder le sujet de ce point de vue-là, du point de vue de la production déjà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème déjà du point de vue de la manière dont on produit et on finance les films? Pourquoi on se retrouve toujours avec les mêmes films? Parce que c'est ce que la production, le financement du film fait qu'on est obligé de se retrouver avec ce même type de film, en fait.
Parce que la production,
vous avez 3 heures.
On va parler du cinéma du cinéma français. La question, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, les plus gros financiers du cinéma français, ceux qui mettent du Caling le blé, c'est les chaînes de télévision. C'est TF1, ouais. C'est M6, c'est un peu France Télé, un peu moins.
Et c'est TF1 et M6.
C'est TF1 et M6, pour résumer à ça. Et en fait, eux, quand ils mettent des billets dans un film, la seule problématique qui les intéresse, bon, c'est évidemment, est-ce que les gens vont aller le voir en salle? Et c'est le
mais
prime.
Mais plus trop, justement. Plus trop, est-ce que les gens vont aller voir en salle? Pas du tout, même. Ce qu'ils veulent, c'est que quand ça va passer en prime time sur la chaîne de télé,
non, mais ça cartonne. Il y a un peu cette problématique-là, mais effectivement, le principal, c'est la question du prime time le dimanche soir
c'est
à la télévision.
Ils parlent plus de spectateurs quand ils
font ça. Tout à fait,
des interviews des dirigeants de TF1 et M6, effectivement, Il parle d'audience, enfin de score, de chiffres, d'unité de personnes. Tu vois, il parle pas vraiment de spectateurs, ils sont vraiment sur l'audimat.
Il y a une anecdote qu'un ami m'a raconté. Il avait assisté à une projection test de Connasse, le film avec Camille, je sais plus comment
c'est. William Cotin,
merci. Donc le long métrage de cette série là, Connasse. Et en fait, à la fin, donc c'était un truc, une projection dédiée justement aux distributeurs, etc. Et il a quand même surpris une conversation où un des distributeurs en fait disait au producteur du film ou je sais pas quoi, c'est pas mal, mais je sais pas si ça correspond tout à fait à la cible TF1.
Voilà, vous avez 4 heures.
Et voilà, et non mais et c'est con, mais c'est terrifiant, c'est que si tu dois en fait tous les faire rentrer tous les films.
Mais vous êtes sûr que vous voulez le faire en caméra cachée tout le film?
Si tu dois faire rentrer tous les films dans la case TF1, bah oui, en fait, forcément. Normalement, tu fais tout le temps la même chose et tu fais des films qui sont torchés, quoi.
Bien sûr, mais de toute façon, ça. Enfin,
je pense que Chabat, quand il a fait Asterix, il n'avait rien à branler de TF1. Oui. Et quand il fait son nouveau film Santa et compagnie,
ce qui est cool. En fait, après, je pense que vraiment Mission Cléopâtre, c'est un accident.
Bah,
quand tu vois le premier que la fille de Goscinny adore, c'est génial parce que c'est le côté franchouillard, on reste vraiment.
J'aime bien.
C'est le côté Close Didi, on reste vraiment. Voilà, côté, ils ont pris Didi. Forcément, ils prenaient le mec qui, ces 20 dernières années, avait fait des cartons ou en tout cas des choses très populaires, c'était très droit. Et puis après, ils ont pris la risque de se dire Chabat, ok, il avait fait quoi comme gros carton avant? Didier
c'était, mais
c'était ça son, bien
marché. C'est son deuxième, je crois que c'est son deuxième,
c'est son deuxième film sur Cléopâtre. Il n'avait pas fait 12. C'est pas lui qui réalise Gazon Maudit? Non, je sais pas.
Non, c'est
Balasco qui réalise. Ouais. Il avait fait 12. Enfin, les 12 millions d'entrées, elles étaient. Il les espérait, peut-être 4 millions d'entrées. Mais les 12 millions d'entrées, elles sont quand même énormes.
C'est colossal.
Et pour le coup, c'était complètement un accident. Enfin, effectivement, le Jamel Debbouze, pour le coup, tu dis, il y a tout le monde dedans, mais Jamel Debbouze, il a amené aussi peut-être 3 millions de personnes, tu vois. Parce que c'était genre pile poil un an après la fin de H, que beaucoup de gens regardaient sur Canal+.
Non, voilà. C'est un pari aussi de prendre un type qui a quand même un univers très installé comme Chabat et lui dire, on te file Astérix, t'en fais ce que tu veux. Et c'est évidemment, c'est un film qui recoupe avec l'esprit de Goscinny, du Narzo, mais c'est aussi un film qui, enfin, l'humour des nuls, il y a 300%, quoi. T'as des blagues complètement absurdes que t'as jamais retrouvées dans un Astérix, même si Chabat dit que bon, lui, l'adaptation, elle était très simple parce que tout était dans la BD, etc. Mais il y a des blagues, bon, certaines notamment qui n'ont pas très bien vieilli, comme Itinéris, j'arrive plus à être capté, etc.
Il y a un côté générationnel dans le film.
Itinéris, oui, t'as raison de ne pas se laisser faire.
Lucas était très fier d'avoir repéré cette blague.
Tu sais que je l'ai capté la dernière fois, je l'avais jamais compris.
Tu l'avais capté,
blague.
Non, je...
Voilà, alors je suis désolé, mais j'ai pas compris.
Inceptio.
C'est vrai. Itinéris, c'est un opérateur mobile.
Oui, ça, d'accord.
Ouais. Raison de ne pas se laisser faire. SFR.
Waouh, je l'avais pas dit. Mind-blowing.
Contrebande, comprenez les blagues de Mission Cléopâtre.
Waouh, j'avais jamais capté.
On apprend des choses dans la contrebande.
En voyant le film.
Et le truc sur ce film-là, il y a tout le monde qui est venu. Effectivement, il y a le délire de Besson qui avait appelé ouais, je peux venir tourner des scènes et tout. Enfin, il a invité tous ses potes, toute sa famille. T'as Bakri, on parlait de Bakri tout à l'heure. Bakri, il est venu, il est arrivé, il a réécrit une petite dizaine de blagues. Ça te plairait ça, ça te plairait ça. Et Chabat était en mode mindfuck. C'est génial.
Il y a Jean-Paul Rouve. Il y a Jean-Paul Rouve, t'as Bakri, il y a Dieudonné, il y a.
Non, mais Bakri joue pas dans le film.
Oui, mais il a écrit des trucs.
Il a écrit des trucs, ouais.
Il y a Darmon aussi. Darmon qu'on voit moins au cinéma maintenant, mais qui est quand même à l'époque.
Qui était drôle, quoi.
Un gros acteur français.
C'est avant qu'il chante. Moi, j'aime beaucoup.
Non, avant le cœur comme Elie Semoun. Ah,
oui. Darmon, il chante?
Il a fait un album comme Elie Semoun. Il a fait un album de chansons.
C'est vrai qu'Elie Semoun a fait un album, j'ai oublié.
Regardez.
Ça, c'est drôle.
Il y a un des spectacles d'Elie Semoun, je ne sais plus où il est, genre à l'Olympia, un truc comme ça, où il finit son spectacle en chantant ses chansons.
Le mec, c'est
son
nouvel album. C'est
un coup très sérieux.
Il dit, oh, je vais vous chanter la petite chanson. Il chante et tout le monde est génial. Et je dis, oui, bon, on venait pour les blagues.
Heureusement qu'ils ont payé leur place, quoi.
Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
C'est pas Toufi, je sais pas trop quoi, c'est vraiment un truc.
Non, c'est Elie Semoun.
C'est sur l'amour, je crois que c'est un truc.
Il est très mièvre. Ouais.
Mais du coup.
Oui,
je reviens à ça. Effectivement, grosse comédie après qui a fait quand même des entrées. Je n'ai pas du tout les chiffres des deux films d'Azanavicius, du 1 et du 2 de OSS 117. Peut-être 5 millions et 7 millions.
Il semble que le 2 a mieux marché que le premier déjà.
Ouais, je ne pense pas que ce soit autant.
Oui, 3 et 6, etc. Ouais, mais
je pense que c'est plus
ça,
2, 3,
ça, c'est des grosses, grosses prods. Parce qu'au final, maintenant, ils ne mettent plus autant de thunes dans un film. Attendons de voir Santa et compagnie.
Si, dans les Danny Boone.
Parce que, et puis c'est toujours le même problème.
Dans les Danny Boone. Parce que je pense que. Les bonnes comédies, elles peuvent plus venir de là, en fait. Maintenant, il faut
compléter des trucs.
Et les bonnes comédies viennent de petites boîtes de prod, parce qu'on parle d'un point de vue prod, des auteurs qu'on a rencontrés, des gens qu'on a laissés faire. Effectivement, moi, j'adore ultimement Les Beaux Gosses, que j'ai dû voir 7 ou 8 fois. Ouais, et ça vient d'un mec qui connaît son matériel, c'est à lui. Il a pleine possession du truc. On le laisse faire ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas TF1 derrière, etc. Je ne sais plus qui a financé le film. Il n'y a même pas Canal+. Peut-être Canal, effectivement.
Ouais, c'est Canal+, ouais.
Petit budget, du coup. Petit budget, mais le mec, il est sûr de son matériel. Ça vient de sa BD. Il fait ce qu'il veut. Et au final, Les Beaux Gosses, et quand même, quand tu parles du film autour de toi, pas mal de gens qui ont vu le film, pas mal de gens qui connaissent les répliques. Le film, il s'est bien vendu en DVD. Pour moi, c'est une belle comédie française qui est une belle réussite et qui peut rester. Qui restera plus, limite, que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Les Beaux Gosses, ça a plus de...
J'espère. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est quand même 7 ou 8 millions d'entrées. Hein.
Voilà, merci.
Bah, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça a dépassé Intouchable, non ?
Non, non, non.
Ça a passé jusqu'à
non, mais c'est 7 ou 8 millions d'entrées. Hein.
7 ou 8 millions.
Si, je t'assure.
Si, c'est énorme. C'est plus même.
C'est plus
8 millions. C'est que c'est plus.
Je crois qu'ils ont atteint les 14.
Ils ont dépassé les 10, je crois. Ils ont dépassé les 10.
Ils ont dépassé Mission Cléopâtre.
C'était Christophe Gans qui
disait... La France va si mal ?
Non, mais c'est Christophe Gans qui disait, un réalisateur de notamment La Belle et la Bête ou Le Pacte des Loups surtout, qui disait, quand un tel film fait autant d'entrées, il ne faut pas s'étonner derrière que le FN soit aussi haut dans les sondages. Mais ce qui est vrai, en fait.
Merci de faire pas avec, mais ça y a.
Non, mais y a
genre ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est un témoin, ouais. C'est un témoin, quoi. Ça,
bien
ça,
sûr,
ça dit quelque chose.
Quelque chose de notre société.
Déjà, quand on sait qu'à bras ouverts, va pas atténuer les...
Ah, oui, mais à bras ouverts, ça a moins mal marché. Beaucoup moins
ça
mal
beaucoup
marché.
Ça a beaucoup moins marché. Ça a bidé à bras ouverts. Enfin, tant bidé mieux. Peut-être pas, mais bidé. Ça.
Qu'est-ce qu'un bide pour Philippe de Chauvron?
Débarquement immédiat.
Débarquement immédiat, il existe.
Il a fait débarquement immédiat entre temps.
C'est vrai, entre temps.
Personne ne l'a vu.
Avec Gaston. Non, c'est pas Gaston Bide. C'est.
Non, c'est l'autre.
C'est l'autre, là. Ils ont la même gueule, les deux. Oui. Je les confonds chaque fois.
Ça l'angoisse. Ça l'angoisse à mort.
La sueur a perlé d'un coup.
Je sais plus.
C'est une peur de la calvitie quand il parle des chauves, ça le rend fou.
Du coup, en parlant de calvitie, justement. Je voulais revenir sur Problemos parce que c'était un film.
C'est 2017.
C'est 2017. Bah c'est
tout frais,
oui,
c'est tout récent.
C'est été, non? Non, un peu avant.
C'est Problemos, c'est mai, un truc comme ça.
C'est une petite prod, c'est l'été. Judor qui a un vrai univers, qui a fait la série Platane avant, ça a bien marché Platane sur le canal, il me semble.
Je pense que ça a mieux marché que Problemos d'ailleurs.
Ah non, Problemos n'a pas du tout marché.
Ça a mieux marché que.
Et le problème, c'est que je
suis sorti, mais
ouais. Bah d'un côté, tant mieux, parce que ce que je veux dire, c'est que. Bah, c'est un film où je pense, je sais pas si c'est parce qu'il a été mal marketé ou si c'est parce que les gens qui n'avaient pas vu Platane, parce que Platane ça a marché, mais je me demande s'il y a pas une espèce de succès post-diffusion aussi, parce moi Platane je l'ai jamais vu à la télé.
C'est génial, Platane.
Je l'ai jamais vu à la télé Platane et je l'ai vu la première saison, je l'ai vu je sais pas combien de fois. En téléchargement, excusez-moi.
Bravo, monsieur.
Bravo, mais ce que je veux dire, c'est pour ça qu'on a les films de merde en France.
C'est pour ça que la comédie bide, monsieur. Franck Gaston Bide, même, pardon. Et du coup.
Oh, on est sûr de cette vanne?
Oui, non, mais t'as pas sûr, on coupera, Antoine, on coupera.
L'ingé son est en train de se. Et en PLS.
Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les gens, quand ils ont vu sortir ce Problemos, au final, un film d'Éric Judor. Bah, le dernier, c'était La Tour de Contrôle Infernale. Enfin, pas de Éric Judor, mais avec Éric Judor.
C'était de Éric Judor aussi, La Tour de Contrôle.
Ah ouais, ouais. Ah,
je savais pas que c'était. Il l'a réalisé.
Ah oui, d'accord. Excusez-moi.
C'est là où c'était encore problématique, puisque du coup, moi, venant sortant de Platane, j'étais là, ouais, La Tour de Contrôle Infernale, ça va être cool.
Ouais.
Pas du tout.
Et voilà. Et sauf que du coup, avec Problemos, il est revenu à un style qui ressemble beaucoup plus à Platane.
Tout à fait.
Sauf que du coup, les gens sont allés le voir en se disant, on va se.
Ceux qui y sont allés, oui.
Oui, ceux qui y sont allés, oui. Mais du coup, ceux qui y sont allés et que j'ai vu personnellement, sortir de la salle pendant le film. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que ah oui, j'ai vu des gens sortir du film. On était 10 dans la salle et il y avait des gens qui sortaient de la salle.
Je l'ai vu, la salle était assez remplie. Bon, c'était une petite salle. Les gens se marraient, quoi.
Ah moi, mais il y avait des gens.
Super ambiance dans la salle.
Mais moi, le truc, c'est que j'ai trouvé que ce film-là, justement, encore une fois, pour en venir à ce qu'on disait tout à l'heure, il est très incisif comme film. C'est un film qui est très cynique, très.
Blanche Gardin, la scénariste.
Ouais, scénariste par Blanche Gardin.
Le scénario, c'est vrai que c'est moi, mourir de rire, je l'aime beaucoup.
Ah oui. Qui joue mais dedans et qui a écrit le scénario.
Elle est pas là pour éplucher les pommes de terre. Enfin, tu vois, elle est vraiment.
Qui a commencé au Jamel Comedy Club, qui faisait partie de la troupe.
Bien sûr.
Fait le lien.
Mais c'est aussi parce que c'est un film qui a un truc à raconter, quoi. On n'est pas
bien
juste
sûr.
Là pour te faire marrer.
C'est ça.
Mais c'est du gros beau français qui a une cliché, qui en prend plein la gueule. Quelque part, ça amène quelque chose derrière, quoi.
Voilà. Mais paradoxalement, du coup, ça pourrait être un film. Bah, du coup, peut-être que c'est ce qui s'est passé. C'est on dit ça parce qu'on l'a aimé, mais c'est ce qui s'est passé, c'est que les gens n'ont pas aimé le film parce que il mettait les Français face un peu à un problème de société.
Pas parfait après. Hein.
Le film n'est pas parfait. Il a été charcuté au montage et tout, ça se voit.
Système D, je sens que c'était fait à l'arrache.
Le truc, c'est qu'aussi, il y a un petit, fourvoiement quand même sur Éric Judor. C'est que les gens pensent que Éric Judor, c'est Éric et Ramzy.
Ouais.
Les gens restent sur H, où il y avait Jamel Lefkoe, qui était vraiment une prod, canal, vraiment un truc très spécifique. Et sur la tour Montparnasse infernale. Mais Eric Judor, c'est pas la tombe Montparnasse. Enfin, son univers, sa façon de penser, ce qu'il a envie de raconter, Platane, c'est pas la tombe Montparnasse. Ouais, ouais. C'est quand même très très différent. C'est bah, plus, c'est plus Ricky Gervais, quoi, tu vois. C'est plus le côté malaisant, malsain, le temps, etc. Donc les gens pensent retourner voir, ou alors toutes les prods qu'ont suivi d'Eric et Ramsey, toutes les daubes, genre, excuse-moi, mais genre Luc et Luc, Double Zéro,
les Dalton.
Non.
Seul tout,
attention,
non, seul pas tout, seul tout. Je suis pas d'accord pour seul tout. Ouais.
Même pour moi, très bien, parce que pour le coup, ouais, c'est Eric Judor qui réalise. Mmh. Il est chef d'orchestre, tu vois. C'est lui qui bat son rythme, c'est lui qui bat la mesure. Non, pour le coup, seul tout, c'est vraiment à part. Les gens regardent l'exemple de Steak de Quentin Dupieux. Les gens s'étaient rués aller voir Steak et non, c'est pas Charles Lemmes, c'est vraiment. Ils les prennent parce que effectivement, je sais même qu'il les a pas pris parce qu'ils étaient un peu bankable à l'époque, tu vois. Il les a pris parce que ces deux mecs-là leur plaisaient et le côté grand mec dégingandé et petit demeuré où ils changent les rôles effectivement de H où c'est Eric Judor qui fait le débile et Ramsey qui fait le mec plus intègre. Bah les gens ils ont pas compris le film. Mais ça, c'est les critiques
ça prouve la richesse de leur humour. Ils sont capables de s'adapter à des trucs totalement différents quoi. Du fait que derrière le public n'arrive plus à suivre.
Et encore, je dis peut-être une bêtise, mais j'ai l'impression quand tu dis qu'ils étaient bankable, j'ai l'impression qu'au moment de Steak, justement, ils étaient un peu plus sur la pente descendante. Ouais, c'était fini, H.
Non, mais c'est un film qui n'a pas été très vendu en plus. C'est un petit film.
N'importe comment. Et
ouais. Moi, je sais.
Bizarre, plus, les mecs ne savaient pas le vendre en plus. C'est un ovni.
En plus, c'est film de Quentin Dupieux. C'est peut-être celui qui l'a fait connaître en plus.
C'est son premier
long, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je sais que personnellement, quand je l'ai vu, je me suis dit. Ok, je l'ai vu au ciné. Je me rappelle, c'était pendant la fête du cinéma ou un truc comme ça. Ouais. Et j'allais le voir. Après, je sais plus quel film. Je me rappelle que de Steak en plus, alors que je me rappelle ne pas l'avoir aimé au moment où je l'ai vu. Et en fait, oui, c'était un truc qui débarquait comme ça. Et oui, tout simplement, ça fait comme pour Problemos. Au final, c'est les gens sont allés le voir en se disant c'est Eric et Ramsey. Bah là, du coup, c'est Eric pour Problemos. Mais au final, ils ont été déçus parce qu'ils ont vu un truc. Oula, une comédie presque trop bien par rapport à ce qu'ils s'attendaient. Enfin, ce que je me dis, je parle pas à la place des gens, mais le film a pas marché extraordinairement. Il est pas resté très longtemps au ciné.
Ça vite, quoi. Quentin Dupieux, c'est intéressant parce que si on devait citer des voix dans le cinéma et des cinéastes récents, avec des 15-20 dernières années, qui ont réussi à moins faire leur trou, à faire leur marque, bon, il y a Toledano Nakash, c'est évident, il y a Zanavicius, et je pense que le troisième, c'est Quentin Dupieux. Même si c'est pas du tout un cinéaste populaire et que c'est un type, je comprends qu'on déteste, même moi, j'aime pas tous ses films, mais.
Mais ils ont le mérite d'exister.
Tu sais que c'est lui, quoi. Il a une patte, c'est un auteur, il a son style à lui, il a une singularité.
Puis mine de rien, il arrive à avoir un sacré cast à chaque fois. Son dernier film, c'était quoi ? C'est Réalité, c'est ça ?
Ouais, avec Chabat.
Avec Chabat, je pensais qu'à Chabat, en fait, c'est pour ça.
Non, mais c'est
non, t'avais personnalité.
Il y avait comment il s'appelle
Jonathan Lambert qui était assez marrant.
Voilà.
Effectivement, dans les grosses prods, tu parlais d'un point de vue de production, il y a quoi ? Il y a les adaptations de BD francophones. Des adaptations de pièces de théâtre, Une heure de tranquillité, Momo, le prénom, etc. T'as les comédies où il y a Max de Pognon. À chaque fois, je mets des registres comme ça, etc. Et effectivement, dans les petits films, là, donc t'as les auteurs, Quentin Dupieux, tu parles de Zanavicius, même si j'ai pas vu Le Redoutable, je sais pas si c'est bien ou pas. Et je pense que il y a des films comédies de petits réalisateurs pas connu, donc c'est le premier ou le deuxième long métrage qui m'ont plu. J'en pense un film que je voudrais mettre en avant. J'ai vu le film, j'ai été très touché, ça m'a fait beaucoup rire. C'était genre Le Nouveau.
Oui, et pareil.
De Rudy Chibreau, réalisateur.
C'était très cool.
Putain,
très très cool ce film.
J'ai vu un film qui parle de l'adolescence, bien écrit, les acteurs bien dirigés,
parce que
drôle
ce film.
Avec une super reprise a cappella de. Comment elle s'appelle cette musique de David Guetta
Ah oui, à la fin du film. Bon, ouais. C'est un bon moment. Ah
ouais. Oui, non, ça y est.
Rudy Rosenberg, il s'appelle
When Love Takes Over. Un truc comme ça.
Oui, c'est ça, When Love Takes Over.
Non, c'est là. Je l'ai. Oui, Le Nouveau, c'était pas mal.
Tu veux nous faire une interprétation, Bastien?
When Love Comes Over ou Takes Over, je
sais pas. When Love Takes Over.
Allez, à la fin du film, ouais. Bah non, pour moi, le problème c'est que.
On a Antoine en PLS derrière. Il a les larmes de sang.
Il a du sang sur la mixette.
Et pour le coup, je me dis que faire ça, tu vois. Et en plus, après, il y avait le film de Gondry, bon, qui est un réalisateur plus connu, qui avait fait Microbe et Gasoil. On est sur Le Nouveau. J'ai sorti du film. Déjà, j'avais été touché pendant le film. Ça m'avait ému. J'avais trouvé ça drôle. Ça avait parlé de choses sérieuses. Et ça l'avait bien fait, je trouve. Et en sortant du film, j'étais, putain, faire un film comme ça, c'est pas facile, quoi. Non, et ça me fait chier qu'en même temps, il y avait les profs d'eux, tu vois, avec Eva Adams ou Aladdin, je sais plus, il y avait les profs d'eux ou Aladdin, et je me suis dit, putain, ça me fait chier, vraiment chier que le film ait fait, le nouveau ait fait genre 400 000 entrées, alors que les autres, ils dépassent les millions facilement, quoi. Parce que c'est plus drôle, le nouveau, et mieux que le reste, sauf que il y a pas de star, il y a pas de Jean Mankable, il y a pas
mais
de youtubeur.
Mais ça a pas trop mal marché parce que c'est quand même un tout petit film.
Ah voilà, les films de youtubeurs, pardon, on peut rajouter les films de youtubeurs à la production.
Ils sont alors parce que du coup pour
parle du manoir, c'est la minute manoir là, ça y est.
C'est la minute.
On peut parler d'autres films avec Manette, le mec
pas passé... très normal activité.
Non, l'autre film
le
avec le
avec Jimmy Jaune là ou je sais pas quoi.
Ouais voilà,
avec
Jimmy Labeu.
Rire jaune.
Jimmy Labeu. Non, Jimmy Labeu.
Ah oui, Jimmy Labeu, oui.
Un film qui sorti avec Jimmy Labeu qui est un youtubeur qui a 800 000 personnes et les producteurs sont dit si chaque abonné de ce film va voir le film, peut-être qu'on fera 800 000 entrées.
Il y a 800 spectateurs au final.
Et il y a eu 800 spectateurs.
Il y a aussi
mal activité quoi.
Il y a Baptiste Lorbert aussi de Batégal aussi qu'on voit pas mal au cinéma de plus en plus.
Mais là oui,
bon, après c'est ceux qui font carrière grâce à leur truc.
Et non, les petits succès, le film du Palma Show, enfin du.
C'est vrai. Oui.
Comment il s'appelle
la folle histoire de Max.
Que j'avais complètement zappé. Oui, c'est un des rares trucs.
Je ne l'ai pas vu. Mais on m'a dit que
c'est tout à fait regardable.
Oui, c'est
tout à fait correct.
Contrairement à Bad Buzz.
Tu fais partie des gens qui ont vu Bad Buzz.
Non. Mais je sais que c'est de la merde.
Je parle en présence de mon avocat. Mais non, ça m'intéressait. Non, après, dans les comédies, ça me fait penser du coup au truc récent français un peu drôle.
Ah, Star 80.
Non, pardon. La suite sort.
Star 86, où à la fin, ils font quand même ouvertement une Weinstein joke sur.
Oui, pédo joke. Ouais.
Une pédo joke sur Jean-Luc Lahaye.
Qui a été supprimé, je crois, des bandes annonces.
Oui, j'ai revu au cinéma, ils l'ont viré.
Quand on a eu le retour,
ils vont carrément tout virer du film, ouais. Mais non, mais le segment de l'animation en France arrive à pondre des trucs assez drôles et, bon, pas que.
Oui.
Mais par exemple, moi, je pense que le dernier que j'ai vu, je pense que tout le monde a vu, c'était Ma vie de courgette.
Ouais. Ouais.
Qui est pas complètement une comédie non plus, parce que t'en prends plein la gueule, mais qui est vendu comme tel, qui est vendu comme un truc familial, même si c'est peut-être pas très familial. Mais en fait, ça, voilà, par exemple, oui, une comédie française cette année qui était super drôle, c'est Le Grand Méchant Renard.
Oui.
Extraordinaire.
Le Grand Méchant Renard, qui est le truc qui paie pas de mine, tu te dis c'est pour les enfants, putain, moi je me suis fendu la gueule devant, quoi. C'est super drôle. Mais c'est pareil, parce que c'est un film qui est écrit, qui est fabriqué, bon.
Bastien est pas d'accord.
Non, si, mais j'ai.
Les boules qui volent, c'est derrière, c'est ça.
Pas plus que ça. C'était bien, mais enfin, c'était vraiment ciblé gosse pour le coup. Enfin, j'ai pas été.
Oui, mais si tu veux, c'est ciblé charmant, quoi.
Voilà.
C'était charmant.
Bien emballé dans un
manque bien emballé, quoi. Mais j'ai un peu somnolé.
C'est un autre niveau que les mignons.
Oui, voilà.
Mais parce que tu vois, pour le coup, j'ai vu Moi, je suis méchant 3 cet été.
La seconde main d'Universal qui a créé sa branche, qui s'est dit où est-ce que je vais pouvoir faire des films d'animation d'extrêmement bonne qualité à moindre coût. Il a pensé la Belgique, il a pensé machin, il s'est dit la France.
Et c'est tombé sur des
détails. Effectivement, McGuffline à l'époque effectivement a dit ok, ils ont commencé à bosser ensemble et du coup c'est devenu Illumination.
D'accord, je ne sais pas que ça venait de là.
C'est Illumination qui fait ça, mais c'est Universal. Je m'amuserais pas à dire que genre c'est un film français. Ouais, alors forcément, on se gargarise de dire que c'est fabriqué en France.
Comment il s'appelle?
On devrait pas.
C'est vrai. Il y a le réalisateur du coup.
C'est Pierre
Coffin.
Effectivement, qui a été au Gobelin, qui réalise le film.
Co-réalise
le film.
Qui fait les voix des mignons, quand même.
Qui fait les voix des mignons. Alors. Mais Universal, on voit quand même, parce que les réunions de ces films-là, c'est quand même 7 personnes d'Universal qui sont là, les scénaristes, enfin 3 scénaristes, le co-réalisateur, c'est quand même américain. Enfin, c'est quand même Universal qui produit.
Pierre Coffin, il avait avoué à demi-mot qu'il n'en pouvait plus. Enfin,
je pense que
c'est pas facile. C'était le dernier avec Les Mignons 2 et après, je crois qu'il arrête. Quoi.
Il va y avoir Les Mignons 2
Bien sûr.
Attends, c'est un des plus gros succès de l'animation.
Ça a fait plus de...
Oh là là là. Évidemment. Non mais oui, effectivement,
l'animation, il y a des trucs pas mal, ouais.
On reviendra j'espère dans une autre émission sur plus en détail sur l'animation en général et voilà, mais c'est vrai que oui, c'est aussi un courant et même je pense que sans faire de raccourci, mais est-ce que la série aussi c'est pas la série comique qu'elle soit filmée ou d'anime, c'est pas aussi un terrain de comique
moi je l'ai pas vu mais je sais qu'a priori 10% c'est un des trucs les plus corrects qu'on ait eu
la saison 1.
La
saison 2
j'ai pas du tout aimé 10% mais
la saison 1
Lucas fait un nom de la tête aussi.
OK, j'ai dit une connerie,
non
ça va.
Non, t'as raison,
t'as raison, mais
C'est un vrai succès populaire. Les gens ont adoré le côté coulisses, face cachée, impresario, qu'est-ce qui se passe. En plus, les comédiens viennent jouer,
comme Platane,
viennent jouer leur propre rôle.
Dans moins bien le Platane.
Sauf que, sauf que 10%.
Ok.
Lucas vient de nous faire une fast pain.
Je viens d'avoir un tilt dans ma tête dans l'entourage de. C'est Harvey Weinstein et tout, et du coup, je dis entourage, il va y avoir une belle liste de gens qui ne seront pas aux Oscars 2018. Mais sauf que 10%, c'est frontal. Alors que dans Platane, excusez-moi, de genre juste avoir des grands sourires en pensant juste aux performances de Gilles Lelouch, qui est un putain d'acteur comique, tant on l'a vu dans le film de la cachette de Toledano, Vincent Cassel. Bellucci, ils sont tous vraiment Amalric, Guillaume Canet, putain, j'aime pas trop ses films, je l'aime pas trop en tant qu'acteur, mais dans Platane, Guillaume Canet, je me dis, il est extraordinaire, parce que Eric Judor,
alors que dans Rock'n'Roll, il était gênant.
Et j'ai pas vu Rock'n'Roll, c'est un truc sur la chirurgie esthétique.
Spoiler, apparemment,
entre autres, on a dit, sur le jeunisme.
C'est la deuxième heure.
Et alors que 10%, c'est quand même très premier degré. Il y a des blagues, mais c'est des blagues de, on fait une blague où il m'arrive un problème, quoi. Là, Platane, il y avait un autre taf derrière.
Je dirais que c'est Platane fait par France 2, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu moins rythmé, c'est un peu plus suivable.
Il y a moins de blé aussi, j'imagine.
Peut-être moins de blé.
Puis à la base, il y a BSNR qui veut quand même raconter
qu'est-ce
que c'est que d'être agent d'acteur avec tous les caprices que ça comprend, etc. Mais je me rappelle avoir vu le premier épisode et après m'être forcé pour regarder la messe parce que le premier épisode, c'était... Non, Platane...
Il n'a pas regardé que le premier.
Quatre fois.
On sait pas de quel épisode tu
parles. Ouais, non. Le premier épisode de 10%. Et je m'étais dit, putain, c'est bien, les gens disent c'est bien écrit, mais c'est du rouage scénaristique. Enfin, c'est bien écrit, mais c'est ultra mécanique, quoi, tu vois. C'était vraiment, il m'arrive.
Ouais, ça marche dans les traces de machin.
Et j'étais, putain, c'était la baguette, quoi, mais c'était pas un gage de qualité. Et le reste, c'est pareil, quoi. Et la saison 2 est passée et je crois qu'elle a super bien marché.
De 10%.
Ouais.
Ouais, bien sûr.
Pour le coup, elle est beaucoup moins bien que la première qui déjà était pas non plus oufissime, mais c'est terrible la saison 2.
C'est-à-dire que c'est le principe de cette série-là, c'est que
tu justifies, tu savais qu'on allait enregistrer le podcast et du coup, voilà, je me suis fait...
C'est que peut-être que plus que Platane à la limite, parce que Platane a quand même, enfin 10% aussi, mais Platane il y a 10% pardon, à cette idée que dans la saison 2, vous allez avoir tel guest. Allez avoir Norman, vous allez avoir machin et tout. Et ce qui fait que c'est du coup la série a cartonné. Du coup, il y a les gens qui veulent jouer dedans et au final, ça marche comme ça. Quoi. Voilà, on veut voir l'épisode avec Norman. On veut voir Je l'ai vu l'épisode avec Norman. J'ai pas compris parce qu'il y a l'intrigue de la série que je connais pas. Donc, du coup.
Comme t'es fan de Norman.
Comme tu es fan de Norman.
J'ai regardé aussi la petite émission, petite série avec Norman sur TF1. Je sais pas comment ça s'appelle.
On voit là un bel étron.
Il y a des petites séries comiques qui existent que les gens ne voient pas.
Alors,
au service de la France.
Oui. Arthur. Alors moi j'allais quand
dans
tu parlais
de OSS 117.
Oui.
Des gens qui sont des gens de pas de la DGSE.
Si c'est ça, c'est la DGSE, voilà, mais dans les années 60, 70.
Donc c'est pas le bureau. C'est quoi le titre? Le bureau des légendes. C'est pas le bureau des légendes.
Oui.
Donc dans les années 60, 70. Et c'est
l'administration française de l'espionnage.
Tu vois la vanne de OSS 117-2, tu dirais à Lambert qui prend la Florentine, tu vois ce genre de vanne.
Oui, c'est ça.
Sur 10 épisodes de 10 fois 15 ou 10 fois 20 minutes.
Pourquoi vous avez répondu au téléphone?
Bien foutu.
Et sont sur Netflix, c'est sur Netflix.
Mais il n'y a pas la force de frappe, de vente de, effectivement, comment tu vends les derrière, les gens le regardent.
En salle, il y avait les bonnes annonces qui passaient pour ça quand elle est au cinéma.
C'est vrai, des extraits de la série.
Les bonnes annonces étaient assez puissantes.
Ah oui, c'est vrai, ça y est.
Mais par contre, je trouve, après, je sais pas si vous pensez la même chose, mais moi, j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dedans qu'un truc comme OSS 117, du fait que c'est peut-être un peu moins punchy en termes de rythme, même de mise en scène et tout. J'ai dû m'y remettre plusieurs fois pour les regarder d'un coup. T'as pas regardé?
J'ai
pas vu,
j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Vraiment.
Oui, moi j'ai
vous parlez
de
quoi?
De ce dont tu viens juste de parler.
Ah, d'accord.
C'est ce dont tu parlais il y a deux minutes.
Parce qu'au début, quand j'en ai parlé...
Le mec qui drop des trucs et démerdez-vous.
Au début, quand j'en ai parlé, vous avez fait des yeux de...
Et on a tous remis à peu près chacun notre tour, on a eu l'illumination.
J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, mais c'est vrai qu'au final c'est vachement bien. C'est du OSS 117 un peu plus administration française et
un
tout.
Un peu plus smooth. Tu parles des séries alors que je crois qu'on ne parlait que du cinéma, mais en animation il y a des millions de vues sur tout ce que fait Bobby Prod, genre les Cassos.
Oui, et moi je pensais aussi à tous les formats courts, tous les formats courts qui sont peut-être maintenant la nouvelle forme de faire de l'humour en fait, où on laisse encore plus de liberté, beaucoup plus qu'au cinéma maintenant dans l'humour.
Oui, dans la conception même, tu pars de zéro, donc tu dois tout faire. Donc
toutes les mini-séries Canal qui sont et puis bon maintenant moi j'estime que c'est évidemment pas la même qualité, mais après voilà, mais tout ce qui s'est fait après Caméra Café et Kaamelott, en fait, sur M6, ouais, ça, Scène de Ménage, ça fait combien d'années que ça dure
Toutes les productions de Calte, là.
Bah ouais, ouais Scène de Ménage, ça fait combien d'années? C'est
7 ans.
Ouais, voilà, ans. C'est...
ça cartonne, hein.
Bah, bien sûr, ça cartonne. Le truc sur TF1 aussi, qui fait un peu la même chose.
Ça cartonne, c'était génial.
Ça cartonne, Philippe Dana, si tu nous regardes.
Reviens-nous, Philippe Dana.
Mais non, mais reviens-nous. Reviens-nous, Philippe Dana. Et sur France Inter, enfin je sais plus, il était à Radio France au dernier.
Ça cartoon à France Inter, c'est chaud quand même.
Non, Philippe Dana était à France Inter, était à Radio France en tout cas. Mais oui, après, est-ce que la série comique, est-ce que c'est pas le futur de ce
qui peut... Un Eldorado.
Non, mais tu vois, où on teste des nouvelles formes, Bloqué, Serge le Mytho, tous ces trucs-là. Bref, enfin même avant, du coup, bref, bon, qui sont au final un peu tout le temps les mêmes mecs,
mais c'est un cercle vicieux,
voilà, c'est un peu incestueux tout ce truc-là, mais tant que ça marche, on va pas bouder notre plaisir, comme dirait l'autre.
Bah déjà, on va pouvoir voir. Il y a, ça me fait penser, il y a Xavier Jeance qui est un réalisateur de films d'horreur qui sort une comédie là
avec Monsieur
Poulpe
et Manu Payet,
avec Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe.
Et Monsieur Poulpe.
Ouais. Et c'est typiquement la génération de ces mecs-là qui donc va faire une comédie avec un type qui a priori a quand même une approche assez visuelle du cinéma. Donc le truc sort en janvier, ça s'appelle Budapest, on verra bien ce que ça donnera, mais...
D'accord. Le seul qui s'en est à première sortie, c'était quand même finalement Fred Cavaillé sur Radin, quoi qu'on pense de Danny Boone ou quoi que ce soit, le film a vraiment le mérite de se tenir et d'être à peu près regardable.
Ça se tient le coup. Ça se l'ai vu au cinéma, j'ai
ouais. attendre quelqu'un.
Ah, je l'ai vu au cinéma. Moi aussi.
Oui, j'ai c'est Léal. Tu sais, dans le truc où t'attends quelqu'un, t'as ton portable pendant tout le film, et finalement la personne dit « Ah, j'ai une demi-heure de retard », et finalement j'ai vu tout le film. J'ai vu tout le film.
Bravo.
Mais c'est pas drôle.
Pour finir, j'ai vu c'est le film, mais j'ai pas vu une comédie.
C'est quand même pour une comédie. Vrai, dans, au fond de mon âme, je suis persuadé de pouvoir dire que Danny Boone, c'est un mec pas mal intentionné et qui pourrait faire des bons films. Et ouais. Le truc, c'est que je pense qu'il s'arrête toujours.
Je pense qu'il s'est fait niquer le cerveau par les chiens.
Là où on s'arrête, nous en France.
Non, mais sans déconner. Hein.
Donc on vient de se couper de toute une partie de la France.
Non, mais sans déconner, je pense que le succès des chiens, ça lui a flingué le cerveau.
Non, mais je suis assez d'accord.
Mais je pense
c'est que depuis, il fait que de la merde.
Bah, ne serait-ce que le fait qu'il fasse plus de stand-up. Parce que moi, j'aimais bien ce qu'il faisait en
one. Il y en a pas fait l'an dernier.
Il en a fait encore de ce spectacle.
Danny Boone, tu confonds, c'est des films. On dirait pas comme ça, mais c'est des films. C'est pas du stand-up.
Non, le truc où il met un kawaii.
C'était un vrai film.
Merde. Le truc où il met un kawaii, non, c'est pas kawaii, c'est un film avec.
Non, mais il me semble qu'il est revenu un peu sur scène parce que c'est son anniversaire de carrière, genre c'est 30, 40 ans.
Ah oui, il a fait un best-of, comme tous les
Asbins. Non, mais il est sur scène, il faut pas aider sport, machin, quoi.
C'est sur un DVD, quoi.
Merci.
Mais bon, c'est le plus grand hit.
Tu vois, la preuve en est que l'année prochaine, il sort Ma Ch'ti de Famille. Donc, je pense qu'il s'est jamais remis du succès de Bienvenue chez les
Ch'tis. Non, bien sûr. Ma Ch'ti de Famille.
Jolie Ch'ti de Famille. Excuse-moi.
C'est vrai que c'était
Il est touchy, hein. Faut pas déconner.
Qui apparemment, pas vraiment, pas la suite. De
c'est un préquel. C'est le Danny Boone univers, ça.
Parce qu'effectivement, quand tu regardais
Attends, il s'est renseigné sur le sujet.
Congrès des exploitants. C'est les photos du convoi des exploitants d'il y a deux mois. C'est à Deauville et t'as la rangée qui amène jusqu'au palais des trucs où il y a les débats, là.
Jusqu'aux portes de l'enfer.
Voilà, c'est le Styx. Tu vois, c'est vraiment le truc que tu parcours avant d'aller mourir. Et t'avais toutes les affiches promo des futurs films à venir.
Oui, t'avais
Gaston, à la 2, Jolie Ch'ti de Famille.
Santa et compagnie.
Et t'avais Santa et compagnie dans lequel j'ai un peu d'espoir. Effectivement, Jolie Ch'ti de Famille, apparemment, n'est pas la suite. N'est pas la suite de Bienvenue chez les Ch'tis. C'est autre chose.
Non,
on n'a pas d'affiche encore des prochains films d'Antoni Ente. Quand on parle des patrons, par exemple, 100% bio. Avec
Balasco, moi j'attends Turf 2, ouais c'est ça, Turf 2.
Il y aura Camping 4 à la place.
Mais vous voyez 100% bio le projet d'Antonia?
Pas du tout. Non.
C'est bon, il a un projet avec Franck Dubosc qui s'appelle All Inclusive, qui est dans un resort All Inclusive style Club Med ou
style Bienvenue à bord avec
ça va être la folie. Et t'as 100% bio qui parle de Clavier et de Balasco qui sont un couple. Clavier boucher au Pays Basque, clavier boucher basque, sa femme coiffeuse. Leur fille Marie est allée à Paris vivre sa vie et revient au Pays Basque pour leur annoncer
qu'elle
va épouser un mec
vegan.
Qui est vegan.
Catching.
Et le titre de travail du BIF, c'est 100% bio. Pour l'instant. Pour l'instant.
Merde.
Pour l'instant.
5 millions d'entrées, facile.
Ah, mais comment tu veux. Enfin, faut se mettre à leur place. Comment tu dis. Parce que faire un film.
Mais Anthony Hattie, il en a rien à foutre. Hein. Ouais. Anthony
on a compris.
Pour le coup, quand tu suis.
Mais ça prend du temps de faire un film. C'est du travail, c'est des années, etc. Comment tu peux te dire, je vais partir 2 ans sur la base d'un synopsis aussi pourri.
Parce qu'il a pas de famille, il a
mais
pas de.
Que...
Il, s'en fout.
Il a rien d'autre à faire. Mais pour le coup, là on rigole parce que direct on visualise Balasco, on visualise Clavier.
On visualise le film en fait.
On voit Clavier vers des. Oh des trucs horribles. Mais si tu mets de côté Antoniente, tu mets de côté Clavier, tu mets de côté Balasco, tu gardes juste le synopsis qui est effectivement un peu con, voire même complètement con. Et tu le mets entre les mains de gens qui savent bosser, qui ont envie d'écrire des personnages, de raconter des histoires, de faire passer des messages, et surtout de faire rire et de le faire bien. Je suis sûr que ce film-là, il peut être drôle.
Non, mais il faut le filer à des mecs tarés, tu vois. Tu prends le même synopsis, si tu suis la fileur des Chris Miller, moi j'ai trop envie de voir.
Exactement,
mais,
exactement.
Mais en France, je vois pas qui.
What the fuck is Payback? Ils vont arriver, bibi.
The Payback.
23 Jump Street,
fuck my
avec,
tu sais.
Non, c'est Channing Tatum dans le Pays Basque que j'achète.
Bah ouais,
hein.
Franchement. J'achète tout dans
Channing Tatum.
J'achète tout dans le Pays Basque.
Tout le monde dans Bras ouverts, Clavier joue un intellectuel de gauche. Donc.
Ah, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Oui, c'est vrai. C'est le BHL.
Oh merde.
Ouais, c'est terrible. C'est...
Non, mais bon. C'est vrai que BHL a fait une comédie aussi. Enfin, je crois que c'était pas prévu pour être une comédie.
Ouais, c'est ça revient
à la base, ça fait sur la guerre en Israël.
Comment ça s'appelait cette merde déjà?
C'est un film du Dombal univers.
Avec Ariel Dombal.
Oui, avec Ariel Dombal. Forcément, il y avait forcément Ariel Dombal quelque part.
Un truc avec du blé en plus qui s'était rétamé. C'était
bref, les bas-fonds du cinéma français.
Ouais. On parle d'Antoniente, mais on a quand même décapsulé nos bières avec un hommage à Jet Set et Jet Set 2 d'Antoniente.
Un
décapsulé beat avec écrit Ibiza dessus.
En rose. Je pense que c'est un goodies de Camping 3 ou de Camping 4. Non mais bon, je pense qu'on a bien fait le tour là. On a refait un costume pour l'hiver au cinéma français.
Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça?
Qu'est-ce qu'on peut en conclure?
Bah, vivement le Shabbat quand même.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est. Est-ce qu'on pourrait pas conclure par est-ce que
une note d'espoir?
Une note d'espoir, ouais. Petite note d'espoir. Je sais pas.
Qu'est-ce qu'on a trouvé pour avoir ça?
On a la note finale d'Antoine Buisson. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir
clair.
Ça
Non, mais que des mecs, que des mecs qui adorent la comédie réussissent à dynamiter le truc de l'intérieur. Ouais. Pas forcément avec beaucoup de thunes au début, mais avec des petites boîtes de prod, fassent des trucs super drôles, que ça marche bien.
Bien sûr, parce qu'on
a beaucoup parlé des mauvais films, il y a des petits films assez sympas.
C'est ça, c'est ça. Quand j'ai pas du nouveau, j'ai le nouveau de.
Il y a des petits films assez sympas sur des.
Non, mais même, il y en a plein au final.
Il y en a plein. Personne ne les voit.
Les combattants, moi je trouve ça vraiment bien.
Mais tu penses que si tu trouves que c'est une
comédie, les combattants?
Bien sûr, c'est une comédie, les combattants.
Ah, mais lol pas tout le long du film et à la fin, t'es pas mort de rire, quoi.
C'est vrai, d'accord. On est d'accord que c'est pas les visiteurs 3. Enfin, c'est pas les visiteurs.
De suite, les grands mots.
Non, mais je c'est le prends pas personnellement, quoi, mais je le prends un peu personnellement.
Le mec est fou, il s'attaque aux visiteurs.
Ivre, il attaque les visiteurs.
J'adore les visiteurs.
Mais bien sûr.
J'aime pas trop les visiteurs 2 et les visiteurs 3 que je suis allé voir.
N'existe pas, n'existe pas.
En Amérique.
Non, mais là, celui-là
non, c'est un choix volontaire.
Celui-là n'existe pas. Le remake du 2, là, est effectivement en Amérique. Et j'ai vu Les Visiteurs 3 à 9h du matin au Hall.
Pourquoi?
Parce que j'adore Les Visiteurs, comme j'ai vu La Vérité si je mens 3.
Oui, comme moi, j'ai vu Les Trois Frères 2.
Tu vois. Et Les Visiteurs 3, j'étais gêné.
Oui, bah oui, bien sûr.
Donc bref, on n'attend pas Les Visiteurs 4.
Je voulais une Madeleine de Proust.
Ouais, allez, vas-y, finis.
J'ai une Madeleine de Prout.
Merci.
Voilà.
Eh ben, on peut
merci. C'était pas drôle.
Non, mais du coup, oui, effectivement, les combattants, c'est pas à se claquer sur les cuisses. Mais du coup, est-ce que ça revient à ce qu'on dit? Est-ce qu'une comédie, c'est il faut rire tout le long? Est-ce que c'est juste parce que c'est un thème positif et Tu vois, enfin, dans ces cas-là, oui, les combattants.
Il y a différents genres de comédies.
Mais moi, d'office, je ne le mettrais pas dans les comédies.
Oui, dans l'absolu, c'est comme tout. C'est quand tu vas voir une comédie, t'attends avant tout à voir un bon film. C'est pas forcément un truc qui va te faire hurler de rire. C'est juste que on va te raconter une histoire correctement avec du travail à l'écran et un truc qui te raconte quelque chose qui est pas vain. Mais ça, c'est rare.
Tu vois, aux États-Unis, tu prends des mecs qui ont un humour un peu trash, un peu vénère. Tu prends les frères Farrelly. Je suis sûr que là, je te demande de me parler de Marie à tout prix. T'es capable de me dire de quoi parle Marie à tout prix, tu vois. L'histoire d'un pauvre mec qui veut retrouver son amour d'enfance. Et puis, il y a quand même une histoire. Mec enquête, il y a des personnages qui existent, ça tient debout. Même Woody Allen, que plein de gens détestent, que moi, par exemple, j'adore, je trouve ça extraordinaire.
Ouais, c'est génial, Woody Allen.
Il y a une histoire, il y a un film policier derrière, tu vois. Il y a, ben, je sais pas, après, ils prennent le genre un peu au sérieux, quoi.
Non, mais il y a du taf. Il faut pas oublier que la comédie, c'est du film de genre.
Et quand bien même c'est salace, qu'il y a des godes michés dans les fesses, qu'il y a des trucs, des blagues de sperme, de cul, etc. C'est bosser, c'est travailler. Après, on adhère ou on n'adhère pas.
Les gosses sont fuselés.
C'est un art quand même. Mettre un gosse de Michel dans
les. Non, mais c'est vrai, c'est pas une caméra, pas de lumière, tout plat.
Ah oui, bien sûr.
C'est faut bosser, quoi.
Donc, bref, faut bosser le cinéma français un peu. Hein.
C'est tout.
Voilà. Sur l'humour, quoi.
Donc, verdict 9 sur 10. Peut mieux faire au prochain trimestre, ça se passera mieux. Mais non, mais de toute façon, oui, là, on parle que du cinéma français, mais si on devait commencer à parler des US et tout, on n'en finirait pas. Mais
c'est pas le but de l'émission.
Non, bien sûr, évidemment. On a déjà fait un bon morceau, là. Mais on en est à combien, Bastien? Plus d'une heure déjà?
Oh oui.
Oh oui.
Mais si tu retiens la demi-heure de conneries avant que.
Non, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Après, est-ce que vous avez un petit dernier film à conseiller?
Une
reco ou pas?
Une reco.
Alors, ce sera pas Les Visiteurs 3 pour Lucas?
Non.
Ce sera pas Les Visiteurs 3. Non, j'ai pas réfléchi à ça.
Que ce soit.
Bah, en plus, tu t'es grillé parce que le nouveau, c'était une bonne reco.
Oui, grave.
Ouais, voilà,
on peut
déjà grillé. T'as shotgun la reco.
Le nouveau, c'est excellent. Là, je suis en train de me dire, mais est-ce que le film a été édité en DVD en fait?
Oui,
je
pense. Tout à fait.
Oh, oui.
Il y a un petit Blu-ray aussi derrière.
Un Blu-ray.
C'est marrant, c'est Blu-ray. Parce que c'était produit par qui du coup pour qu'il y ait un Blu-ray alors qu'il y a des films aujourd'hui.
Je sais qu'il y a mis des bits dedans.
Ouais. Ok, parce qu'il y a des films aujourd'hui qui mériteraient d'avoir des Blu-ray et qui ont. Tu sais, genre, je suis sûr que, par exemple, Laisser bronzer les cadavres, là on parle complètement autre chose que j'ai pas vu. Mais
ah oui.
Genre de film qui mériterait des Blu-ray, j'imagine, qui sortira probablement pas en Blu-ray. Quoi.
Bah ouais, c'est particulier, Laisser bronzer les cadavres.
IPE à l'étranger.
Peut-être à l'étranger.
Ouais, souvent en Allemagne, on a des Blu-ray qui sont jamais sortis en France, de films français, des trucs improbables des fois. Vidocq en 3D notamment.
Merci l'Allemagne, on ne le dira jamais assez.
Ouais, revoir les beaux gosses.
Ouais, revoir les beaux gosses. Moi, j'avais beaucoup aimé. Je sais que
Jackie au Royaume des Filles.
Jackie au Royaume des Filles, j'aime beaucoup, moi.
Mais je l'ai vu. Je suis pas fan de Jackie au Royaume des Filles.
Parce que je veux voir une série d'animation ou pas, Pascal Brutal. Je veux voir Pascal Brutal adapté. Voilà.
Mais non, tu vois, j'ai vu le film réalisé par un grand corps malade. C'est pas une comédie du tout.
Ah oui,
c'est pas une comédie du tout, mais je l'ai loué en VOD. Première fois que je fais chat depuis que j'ai ma box, j'ai loué un film en VOD. Je me suis dit, putain, le mec, il a réalisé un film pas misérabiliste, sensible,
drôle,
le mec parle de son sujet, drôle, et drôle.
Et il est handicapé.
Qui parle de la...
Et c'est pas une mince.
Mec, t'es en train de piétiner sur les prochains films de Clavier, là, c'est pas très sympa. Mais qui est drôle et qui parle de l'amitié, enfin...
Non,
c'est très plein de mise ouais. en scène et tout, mais...
Non, c'est vraiment chouette, ouais. Non,
j'ai souri, j'ai trouvé ça... Ben, ouais. c'est sincère, quoi.
Très bonne roco, patient.
Donc on remercie Lucas qui vient nous taper deux rocos, comme ça. Ouais.
Voilà. Mais c'est pas grave, c'est ça, voilà. On sneak les petites contrebandes de films, c'est tout.
Tu as une roco?
Alors je vais faire...
Moi j'en pensais à une qu'on avait déjà fait auparavant.
Ah ouais, bâtard.
Je te laisse.
Non, vas-y, prends-la. Non, vas-y, prends-la.
Non, je vais faire... Non, je vais jouer...
Vas-y.
C'est au travers du truc. Je vais passer au travers du truc et je vais faire une reco plus générale, en fait. Dire aux gens d'essayer de... S'ils peuvent se concentrer sur les petites sorties de films de temps en temps, des petites comédies comme ça. Plein de petites sorties qui sortent chaque semaine où des fois, il y a des bonnes petites surprises comme ça.
Bien sûr, il faut
pas essayer de se cantonner avec...
Non, genre... Ça existait, ça aussi, ouais. Joey Star.
Non, mais là, par exemple, Jeune Femme, apparemment, qui vient de sortir, qui est assez pas mal sur une fille qui est...
Vous l'avez pas vu ? C'est une comédie ?
Ah, c'est plutôt une comédie, ouais.
Okay.
C'est
Victoria aussi était une comédie, par exemple.
Oui, oula.
Ouais, mais Victoria,
c'était pas bien, Victoria.
Je l'ai pas client.
C'était pas bien, ça.
Ah bon ? Oui, enfin bref. Mais du coup, Jeune Fille, c'est Jeune Femme ?
Jeune Femme.
Ouais, Jeune Femme. Ouais, qui est sur une fille qui se fait... plus ou moins mettre à la porte par son mec et qui va essayer de retrouver par ses propres moyens une façon de se démerder, quoi. Et apparemment, c'est assez frais, assez drôle. Hein. Mais en tout cas, moi, c'est la comédie là qui est sortie la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus, mais que je me dis, il faut que j'aille la voir avant qu'elle sorte.
C'est tout chaud.
Ouais, mais en termes de petit film qui va sûrement pas rester très longtemps au cinéma,
important.
Tu forces, je suis sûr que ça t'intéresse pas du tout.
Non, si, si, en plus, non, sans déconner, j'ai prévu de le voir.
En off, ah ouais?
Ouais, non. Bon.
En off, t'avais fait, ah, putain.
Pourquoi on conseille des films de merde?
Chier, quoi.
Oh, allez, on abrège.
Bref. Non, ouais, mais, alors, coup, moi, pour faire une reco, bon, c'est une reco à la con, mais c'est, je crois que c'est vraiment le dernier film français récent qui m'a fait pleurer de rire. C'est Lucie de Luc Besson. Et je conseille, non, alors, sans déconner, je conseille à quiconque de se réunir à une soirée avec des potes, de vous mettre une race pas possible et de mater Lucie de Luc Besson. C'est un bonheur. Moi, je pleurais de rire, j'étais roulé en boule contre un pote en train de pleurer, j'ai un pote qui se roulait par terre, enfin, c'était l'euphorie, mais ne serait-ce que pour voir Scarlett Johansson qui répond à un stock shot de Léopard sorti nulle part, qui fait grrrr. Il faut le voir, c'est génial. C'est très, très
ça, moi je trouve ça hyper audacieux de la part de Luc Besson, parce qu'avoir Scarlett Johansson dans son film pour la transformer en clé USB à la fin, je trouve ça génial.
C'est aussi ça le cinéma français, voilà. Ok. C'est ça être Luc
mais
Besson.
Mais vraiment, ouais, c'est pris au second degré, c'est très 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 marrant.
Bah, effectivement, une relecture de.
Donc sympa, nos rocos de comédie en française, en fait, c'est des.
C'est le film de merde.
Tu vois, c'est ce que tu disais, Bastien, au début, c'est que la comédie, c'est partout. Le rire,
c'est
ça, il est partout.
Mais oui, voilà. Pourquoi on restreint de rire à la comédie?
Et ben, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est comédie française.
C'est déjà pas mal.
Hein. Merci pour cette bonne édition de La Contrebande.
Merci à vous.
J'espère que ça vous a plu, que c'était audible. Parce qu'on a beaucoup rigolé, on s'est un petit peu chauché, mais bon, on verra tout ça avec vous. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux qu'on va créer avec Bastien.
Ouais. Oui.
Sur toutes les plateformes possibles et inimaginables. Voilà, bisous, donnez-nous des retours. À la prochaine. Merci à tous.
Bisous. Pensez-vous
que tu prends un
dé?
Moi, je vais me
coucher. Oh, cinéma, tu restes debout, toi. Assieds-toi. Et regarde ce nom pour toi.
Et c'est une fin de tournage.